Bien. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et merci encore pour votre fidélité. Je vous propose de commencer. Avant de commencer, quand même, je signale le séminaire que nous aurons à 11h15, qui sera donné par Christian Ross sur de la création d'intrication quantique dans un simulateur quantique à base d'ions piégés. Et la semaine suivante, ce sera Pascal Senlard-Mardon du C2N à Marcoussis qui nous parlera de composants qui permettent de générer et d'utiliser des photons de manière individuelle. Bien, alors, j'en viens maintenant au cours lui-même. Donc, le troisième cours de cette série consacrée à la matière topologique va porter sur les pompes adiabatiques. Alors, j'espère que vous verrez ce qui se cache derrière ce nom un peu mystérieux. Alors, je voudrais commencer par un très bref résumé des concepts, pour l'instant, simplement des concepts qu'on a vus dans les cours précédents. On s'est intéressé jusqu'à maintenant à des problèmes périodiques unidimensionnels, et ça va encore être le cas aujourd'hui. On sera toujours en une dimension, on passera à 2D à partir de la semaine prochaine. Et on a dit beaucoup, enfin, on s'est beaucoup intéressé à ce modèle SSH introduit par Schrieffer et Eger. Ce modèle SSH, je vous rappelle ce que c'est. Ça consiste à prendre une chaîne avec des sites. Chaque site, donc, c'est un modèle à une particule, hein, donc la particule peut être sur un site donné. Tous les sites ont la même énergie, que j'ai pris nulle par convention, et la particule saute donc d'un site à un site voisin, et on a dans ces sauts deux éléments de matrice possibles, ce qui simulait, je vous rappelle, une chaîne de polymères, de polyacétylène. On peut sauter donc de ce site-ci à ce site-ci avec un élément de matrice J', ou de ce site de départ ici vers la gauche, cette fois-ci, avec l'élément de matrice J. Et donc J et J', on leur donnait la possibilité d'être différents. Ça symbolisait, par exemple, une double liaison pour cette liaison pour ce saut de A vers B vers la droite, et c'est une simple liaison pour le saut de A vers B vers la gauche. Et avec ça, on avait identifié une classification topologique, et je voudrais vous rappeler, donc en deux diapositives, quelle était la nature de cette classification topologique pour ensuite franchir le pas vers ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc le principe de cette classification, ça partait du principe que donc on avait une cellule unité à deux sites, par exemple cet ensemble AB ici, et comme par ailleurs on a un problème qui est périodique d'espace, on peut rechercher les états propres de l'hamiltonien de cette chaîne en utilisant le théorème de Bloch, qui nous dit que les états propres s'écrivent comme le produit d'une onde plane et puissance IQX fois une fonction périodique sur le réseau que je note UQ de X. Et dans la mesure où on s'intéresse ici à un modèle de liaison forte, où on dit simplement la particule est sur le site J, ça caractérise complètement son état, eh bien, on a pu représenter donc ces états propres sous la forme d'un pseudo-spin-on-me, c'est-à-dire que cette fonction périodique sur le réseau, EQ de X, est simplement caractérisée par l'amplitude de probabilité pour être sur les sites de type A et l'amplitude de probabilité pour être sur les sites de type B. Et puis, dernier pas propre à ce modèle SSH, le fait que les énergies EA et EB soient égales à zéro, eh bien on avait vu ensemble que ça signifiait en fait que les amplitudes de probabilité pour être sur un site A et sur un site B avaient le même module, elles ne différaient que par une phase. Et cette phase, eh bien, c'est une quantité donc, que j'ai écrite sous la forme et puissance I phi Q, alors avec un signe moins si je m'intéresse à la bande supérieure, un signe plus si je m'intéresse à la bande inférieure. Je suis un modèle à deux bandes puisque j'ai deux sites par cellule unité, et la phase phi q qui intervient ici donc dépend de q. Q, c'est le moment de bloc, c'est ce qui me permet de repérer donc l'onde plane et puissance IQX qui est là, et je vous rappelle que ce moment de bloc, on le choisit par convention dans la première zone de Brillouin, qui est donc un segment de l'axe réel compris entre moins pi sur a et plus pi sur a, où petit a est la période de cette chaîne ici. Voilà, donc ça c'est un très très bref résumé de ce qu'on avait vu. Maintenant, quelle était la classification topologique en question? Eh bien, cette classification topologique, elle était fondée sur l'enroulement de ces vecteurs propres, précisément de ces vecteurs donc à deux composantes associées au spin fictif, de l'enroulement de ces vecteurs propres sur la sphère de Bloch. Puisque j'ai affaire à un spin-on-me, je présentais l'état de ce spin-on-me par un point sur la sphère de Bloch, et ce qu'on avait vu, c'était que suivant la classe topologique dans laquelle on se trouvait, eh bien, on n'avait pas le même type d'enroulement sur la sphère de Bloch. Plus précisément, les deux classes topologiques étaient déterminées par la valeur relative du saut J' et du saut J, de la double liaison par rapport à la simple liaison. Dans le cas où J' est plus grand que J, dans le cas où c'est vraiment une double liaison conventionnelle, c'est-à-dire qu'elle est plus forte que la simple liaison, eh bien à ce moment-là, donc en prenant cette cellule unité comme ça, où on dit que J' c'est donc le saut intracellule et J c'est le saut intercellule, eh bien ce vecteur UQ, donc là je prends le moins pour la bande inférieure, la bande d'énergie inférieure, mais j'aurai le même résultat pour la bande d'énergie supérieure, ce vecteur UQ reste sur l'équateur parce que j'ai la même amplitude en module sur plus et sur moins, et en plus, eh bien, il fait une petite excursion sur la sphère de Bloch quand je parcours toute la zone de Brillouin, mais rien de plus. Donc c'est le double flèche rouge qui est représenté ici. En revanche, dans le cas topologique, quand l'élément de matrice intracellule est plus petit que l'élément de matrice intercellule, à ce moment-là, ce vecteur pour la bande inférieure, et encore une fois, j'aurai le même résultat pour la bande supérieure, eh bien, quand je parcours toute la sphère de Bloch, ce vecteur s'enroule complètement autour de l'équateur de la sphère de Bloch. Dans tous les cas, il est sur l'équateur, mais dans un cas, il ne s'enroule pas, et dans l'autre cas, il s'enroule. Voilà. Et on avait donc, ça c'était une version assez mathématique de la classification, mais la physique qui est derrière ça, c'est l'existence ou non d'état de bord. Et ce qu'on avait vu ensemble la dernière fois, c'est que si je prends des chaînes semi-infinies comme celle-ci, donc une chaîne qui n'occupe qu'une demi-ligne sur l'axe réel, qui est, disons, de nature topologique, et si je la couple à une chaîne qui, elle, est de nature normale, eh bien, on est certain qu'ici va apparaître un état de bord, et cet état de bord sera robuste. Ici, j'aurai donc un certain couple J1-J'1, qui sera dans le cas normal, donc avec J'1 plus grand que G1. Ici, j'aurai un autre couple J2-J'2, qui sera, lui, dans le cas topologique, J'2 plus petit que G2, eh bien, peu importe les valeurs exactes de J1, J'1, J2, J'2, pourvu que je sois comme ça pour 1 et comme ça pour 2, eh bien, peu importe les valeurs exactes, je suis sûr d'avoir un état de bord pourvu que je réalise une connexion normale topologique ou topologique normale. En revanche, si je fais une connexion normale normale ou topologique topologique, là, je n'ai pas d'état de bord qui apparaît à l'interface. Voilà. Donc ça, c'est la version mathématique, c'est l'enroulement, version physique, c'est l'existence d'état de bord. Le but de ce cours, eh bien, c'est toujours, comme j'ai dit, de rester dans des situations dimensionnelles, mais de se poser le problème de dépendance en temps maintenant des paramètres. Et en un certain sens, introduire comme ça une dépendance en temps, eh bien, ça revient à passer dans un problème à deux dimensions, puisque je vais avoir une dimension d'espace, une dimension de temps, et ça va nous préparer le terrain pour la suite, où là, on explorera deux dimensions d'espace, ce qui est le véritable effet Hall quantique et la généralisation aux isolants topologiques. Et donc la question qu'on va se poser, c'est quand j'ajoute donc une deuxième dimension à mon problème, la dimension de temps, quelle est l'influence de la robustesse topologique sur l'évolution du système ? Alors pour étudier ça, on ne va pas se restreindre au modèle SSH, là pour le coup le modèle SSH serait trop pauvre, il faut qu'on enrichisse un peu le modèle SSH, et on va relâcher simplement la contrainte EA égale EB, c'est-à-dire qu'on va rester dans un modèle de liaison forte, on va rester avec des cellules unités à deux sites, donc notre approche pseudo-spin-only va rester valable, mais simplement maintenant je vais m'autoriser à avoir une énergie EA différente de l'énergie EB. Et vous allez voir que ça enrichit considérablement le problème. Ça fait perdre en un sens la caractérisation topologique qu'on avait en termes d'enroulement sur l'équateur de la sphère de Bloch, mais ça nous fait regagner, pour les problèmes dépendants du temps, une autre classification topologique qui, elle, se généralisera à deux dimensions. Et c'est donc là, quand on va étudier ces problèmes dépendants du temps, qu'on va voir apparaître la notion de pompe adiabatique. Et point très important qu'il y a avec, une notion de quantification. De quantification de quoi ? Eh bien, c'est quantification du déplacement d'un paquet d'ondes quand je fais une boucle de cette pompe adiabatique. Là encore, j'espère que tout ça va s'éclaircir dans les minutes qui vont suivre. Donc commençons par introduire ce modèle qui est enrichi par rapport au modèle SSH, avec des énergies EA et EB qui ne sont pas nécessairement égales. Et c'est ce qu'on appelle le modèle de Rice-Meleu. Rice-Meleu ont publié un article peu de temps après SSH qui justement généralise SSH pour étudier, là encore, des excitations élémentaires dans le cadre de théorie des champs. Donc ce modèle, je l'ai encore écrit ici, EA est différent de EB, a priori, enfin il peut être égal, mais il peut être aussi différent. Je suis toujours dans un modèle de liaison forte et je considère toujours une chaîne périodique infinie, donc j'ai toujours mon théorème de Bloch. Et mon théorème de Bloch, je vous rappelle ce qu'il me dit. Là, je rentre plus dans les rappels, mais des rappels plus, cette fois-ci, techniques que conceptuels. Le théorème de Bloch me dit que je peux donc chercher mes états propres de Hamiltonien sous forme d'une onde plane, qui, dans ce modèle discret, s'écrit simplement E puissance I fois le moment de Bloch Q fois JA, qui est la position de la cellule en jm position, fois une fonction qui est donc périodique sur le réseau, qui prend la même amplitude sur tous les sites A, J du réseau, amplitude que je vais noter alpha Q, la même amplitude sur tous les sites BJ du réseau, amplitude que je vais noter bêta Q, ce qui veut dire que le ket UQ, cette fonction périodique sur le réseau, dans ses notations de liaison forte, peut s'écrire alpha Q fois une fonction qui est donc simplement la somme sur tous les AJ, plus bêta Q, une fonction qui est simplement la somme sur tous les BJ. C'est ça que je représente par un pseudo-spin 1/2, UQ, le vecteur à deux composantes complexes, alpha Q, bêta Q, et je prendrai ce vecteur normé, c'est-à-dire alpha Q carré en module plus bêta Q carré en module égale 1. Donc là, encore une fois, c'est un rappel de la technique de la machinerie qui se cache derrière, hein, mais qu'on a déjà vu dans les cours précédents. Donc pour trouver les alpha Q et les bêta Q, bien simplement, on injecte cette forme-là pour l'état propre de l'hamiltonien de départ, et ensuite on cherche une équation sur les inconnus qui sont alpha Q et bêta Q. Cette équation se présente comme une équation valeur propre pour un hamiltonien périodique, un hamiltonien qui dépend du moment Q que j'ai choisi ici, donc le petit Q qui intervient dans alpha et bêta. Et cet hamiltonien HQ, eh bien, c'est donc une matrice 2 par 2 hermitienne, et toutes les matrices 2 par 2 hermitiennes peuvent s'écrire sous une forme simple, qui est une combinaison linéaire de quatre types de matrices différentes. La première, c'est l'identité. Et puis ensuite, c'est des combinaisons linéaires des trois matrices de Pauli, sigma x, sigma y, sigma z, qui sont rappelées sur le tableau là-bas à droite. Sigma z, par exemple, c'est la matrice diagonale avec un 1 en haut à gauche et un moins 1 en bas à droite. Et sigma x et sigma y, elles, eh bien, elles n'ont pas de coefficient sur la diagonale. Et sur les termes opposés à la diagonale, eh bien, vous avez 1, 1 pour sigma x et i moins i pour sigma y. Et donc, mon hamiltonien HQ pour mon pseudo-spin 1/2 peut toujours se décomposer comme somme de ces quatre matrices-là, avec des coefficients devant qui sont donc des nombres réels, donc ici j'ai et qui ont la dimension d'une énergie. Donc ici j'ai E02Q pour faire l'identité, lui ne va pas jouer de rôle dans la suite, parce que ce qui nous intéresse c'est les vecteurs propres, et comme c'est l'identité, ça n'a aucune influence sur les vecteurs propres. Ce qui va jouer un rôle, c'est les coefficients de sigma x, sigma y, sigma z, qui sont donc trois nombres, hx, hy, hz. Et donc toute la physique intéressante va venir de ce vecteur, qui est donc un vecteur dans l'espace réel à trois dimensions, hx, hy, hz, qui viennent multiplier sigma x, sigma y, sigma z. Et donc on va s'intéresser à ce vecteur-là pour voir comment il se comporte. Alors, pour être un tout petit peu plus précis, je vous rappelle ce que je vous avais dit, je crois que c'était il y a deux semaines, on a donc un problème à quatre paramétrés avec quatre nombres réels, E0, hx, hy, hz, et on va s'intéresser surtout aux vecteurs propres pour caractériser la topologie. Et donc c'est intéressant de séparer ces quatre paramètres réels en deux paramètres qui portent sur l'énergie, et donc sur les vecteurs propres, pardon, qui portent sur l'énergie, donc sur la valeur propre, et deux paramètres qui portent sur les vecteurs propres, pour essayer de séparer les variables, si vous voulez. Et donc ça, c'est ce que j'appelle la paramétrisation énergie-angle. Donc le problème du pseudo-spin 1/2 est caractérisé par E0 et ce vecteur H, mais ce vecteur H lui-même, je vais le représenter par son module, et puis ces angles en coordonnées sphériques, θ et φ. Donc θ, c'est l'angle qui fait avec l'axe z, et puis φ, bah, c'est l'angle azimutal dans le plan xy. Et quand je représente donc le vecteur h en fonction de ces trois composantes, donc qui vont être module de h fois cosinus θ selon z, et puis dans le plan xy, j'aurai sinus θ cos φ et sinus θ sin φ. Si je remplace h par sa valeur, je reporte les valeurs des trois matrices sigma x, sigma y, sigma z, et j'obtiens donc mon hamiltonien HQ qui s'écrit sous cette forme-là, toujours 0 fois identité, et puis là je sors le module de H de la matrice 2 par 2 et je me retrouve avec une matrice 2 par 2 qui dépend que des angles, θ, l'angle par rapport à z, et φ, l'angle dans le plan azimutal, pour mon vecteur H. Et ça c'est très commode parce que j'ai effectivement maintenant séparé les variables pour les valeurs propres qui sont les énergies. Les énergies, eh bien, elles sont très simples à déterminer puisque les valeurs propres de cet opérateur-là, eh bien, je les ai dès que je connais les valeurs propres de cette matrice-ci. Or, les valeurs propres de cette matrice-ci, c'est plus 1 et moins 1. Donc, les valeurs propres de tout l'opérateur qui est écrit ici sera simplement E0 plus ou moins module de H. Donc, E0 et module de H servent à paramétrer les énergies propres. Et en revanche, les états propres, eux, ben, ils dépendent que des angles θ et φ. Et là, en faisant un choix de jauge, en prenant comme choix de jauge le fait que la première composante de mon vecteur, je la prendrai toujours réelle positive, donc je mets tout ce qui est complexe sur la deuxième composante, aussi bien pour U- que pour U+, eh bien, j'ai le vecteur associé à la bande inférieure U- qui va s'écrire cos θ sur 2 et puissance i phi sin θ sur 2, vous pouvez vérifier, hein, ça marche, Et puis, le vecteur U+, c'est bien simplement l'orthogonal sinus θ sur 2, moins et puissance φ cos θ sur 2. Et la sphère de Bloch arrive ici. Je représente ce vecteur-là, si je m'intéresse à la bande du bas, je représente ce vecteur-là par un point sur la sphère de Bloch, et ce point, finalement, c'est le point du vecteur h sur module de h. C'est un point qui fait l'angle par rapport à l'axe z, θ, et qui prend comme angle azimutal φ. Donc, finalement, ce que je paramètre, quand je dis que je paramètre U-, en fait, ce que je paramètre, c'est plutôt le vecteur h divisé par son module, mais c'est la même chose, évidemment. Si je connais le vecteur h, je connais ce vecteur-ci. Donc, c'est pareil. Bien. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu ensemble. Un dernier point de rappel qui va nous être utile pour la suite, c'est la notion de connexion de Berry. Cette connexion de Berry, je l'avais introduite, là encore, il y a deux semaines, pour calculer cette phase géométrique qui apparaît quand j'ai un Hamiltonien qui dépend d'un paramètre et que ce paramètre décrit un contour fermé. La connexion me permet, quand je l'intègre, de trouver la phase géométrique accumulée sur ce contour. Donc la connexion, finalement, ça me dit comment, quand je suis à un certain paramètre pour l'Hamiltonien et que j'augmente ce paramètre par une quantité infinitésimale, de combien est-ce que ma phase géométrique va augmenter. Et cette connexion de Berry, eh bien, si je me prends la bande inférieure, par exemple, elle s'écrit pour le vecteur U indice Q moins, elle s'écrit comme le produit scalaire de UQ moins avec son propre gradient. C'est ça qui me permet de voir comment est-ce que je passe d'un point Q au point Q immédiatement voisin. Eh bien, c'est à partir de ça que je construis la connexion de Berry, en prenant UQ scalaire, la dérivée par rapport à Q du même UQ, avec un facteur I devant pour que la quantité ici soit réelle. Et si maintenant je injecte la forme explicite de UQ pour mon modèle de liaison forte caractérisé par un spin 1/2, et là, ce n'est pas compliqué de voir que la dérivée par rapport à θ ne compte pas parce que UQ est normé. Et donc, tout ce qui reste, c'est la dérivée par rapport à φ. Et donc, quand on fait le calcul, on trouve moins dφ sur dq sinus carré θ q sur 2. Et si vous préférez exprimer ça en fonction de l'angle double, sinus carré de θ sur 2, c'est 1/2 de 1 moins cos θ. 1/2 de 1 moins cos θ. Et donc, ça, c'est écrit 1/2 de dφ sur dq moins 1 plus cosinus θ. Vous pouvez faire la même chose pour la bande supérieure, bien sûr, en reprenant l'expression que j'ai donnée tout à l'heure, et vous trouvez l'expression de la connexion de Berry pour la bande supérieure. Et un point important, c'est que cette connexion de Berry dépend de la jauge. Ce n'est pas une quantité physique, c'est-à-dire que je ne vais pas mesurer la connexion de Berry dans une expérience. La connexion de Berry dépend de la jauge. Je vous ai dit, je fais le choix de jauge dans tout ce cours, de dire que la première composante de U- est réelle et positive, mais j'aurais très bien pu prendre un autre choix de jauge en disant que c'est la deuxième composante qui est réelle et positive. À ce moment-là, le E puissance IFI qui était en bas ici, je dois le passer en haut en mettant E puissance moins IFI. Et à ce moment-là, la connexion de Berry sera différente. C'est pour ça que je lui ai un petit tilde ici par rapport au A-. Ah ben pourquoi lui, il a un tilde? Excusez-moi, il ne devrait pas avoir de tilde, lui. Justement, le tilde, il est là pour dire que je fais un choix de jauge. J'espère qu'il n'est pas présent dans les notes écrites. Ça doit être un coupé-collé malencontreux. Le A tilde, donc là il n'y a pas de tilde, et là il y a un tilde, et il y a une différence entre les deux, c'est le moins 1 ici qui est devenu un plus 1 parce que j'ai changé de jauge. Donc la connexion de Berry n'est pas invariante de jauge, en revanche son intégrale sur un contour fermé l'est parce que la phase géométrique est bien invariante de jauge. Alors venons-en au modèle de Rice-Mellet après ce rappel. Donc comme j'ai dit, j'enrichis le modèle SSH, et j'enrichis le modèle SSH simplement en affectant une énergie au site EA et EB. Je ne change pas la manière dont la particule va sauter d'un site à l'autre. Ça, j'ai toujours mes éléments matrices J' à l'intérieur d'une cellule et J pour se passer d'une cellule unité à l'autre. Ce que je change, c'est simplement l'énergie de EA et l'énergie de B. Donc, si vous vous rappelez la forme d'Hamiltonien périodique que j'avais pour mon modèle de SSH, qui avait simplement des zéros sur la diagonale, et puis en dehors de la diagonale, il avait moins J' pour le terme intracellule, et puis J et puissance IQA pour me dire comment est-ce que je passais d'une cellule à une cellule distante de petit a, eh bien, ce terme-là, il va être inchangé par rapport au modèle SSH. Donc, je ne refais pas la démonstration, mais c'est ce qu'on avait vu il y a deux semaines et la semaine dernière. Lui, il est inchangé, puisque la manière dont je saute n'est pas modifiée. En revanche, sur la diagonale, ici, eh bien, l'énergie de A n'est pas la même que l'énergie de B, donc je mets un EA ici en haut à gauche pour le site A et un EB en droite pour le site B. Et pour écrire cet opérateur HQ sur la base donc, de mes matrices hermitiennes, l'identité et puis les matrices de Pauli, eh bien, je sors de ça la demi-somme EA plus EB, proportionnelle à l'identité, Et puis, ce qui va me rester ici, eh bien ça va être une combinaison linéaire de sigma x, sigma y, sigma z. Alors, sigma x et sigma y, c'est pour rendre compte des termes de saut, des j et les j'. Et sigma z, eh bien, il est là pour me rendre compte de ce qui reste ici. Ce qui reste ici, c'est 1,5 de EA moins EB, et puis ici, c'est 1,5 de EB moins EA. Donc, c'est ce que je vais appeler delta. Delta, c'est 1,5 de EB moins EA, c'est la manière dont je le définis. Donc, ici, j'ai un delta et moins delta sur la diagonale. Et donc, ça, ce sera simplement delta fois sigma z. Donc, ce que je trouve ici, c'est que passer du modèle SSH au modèle de Rice et Mêlée, c'est simplement donner une composante non nulle à mon vecteur petit h. Avant, mon vecteur petit h avait simplement une composante sur hx et sur hy, c'était les parties réelles et imaginaires des termes qui étaient là. C'est pour ça que mon vecteur petit h était dans le plan équatorial. Et là, maintenant, en donnant une énergie différente à EA et EB, eh bien, je viens mettre ici un hz qui est non nul à cause du sigma z que vous voyez ici et du delta moins delta qui est là. Et ça, ça va changer complètement la topologie parce que maintenant, je ne vais plus être confiné donc, sur l'équateur de la sphère de Bloch dans la mesure où je mets une composante non nulle sur hz et en particulier, je peux atteindre n'importe quel point de la sphère de Bloch, en particulier, je peux atteindre le pôle. Et c'est intéressant de se demander comment est-ce qu'on va atteindre le pôle parce que ça va jouer un rôle dans la suite. Comment je fais pour arriver au pôle nord? Bien, le pôle nord, c'est un vecteur tel que cosinus, enfin, tel que θ vaut 0, donc cosinus θ vaut 1. Donc ce qu'il faut, c'est que j'annule hx et hy, et puis que j'ai hz non nul. Alors hz non nul, je l'ai en prenant delta non nul, et plus précisément, il faut que je prenne positif si je veux être au pôle nord, il faudrait que je prenne négatif pour être au pôle sud, et puis il faut que j'annule à la fois cette composante-là et celle-là. Alors si je ne veux pas prendre j égale 0, parce que ce serait trop trivial, ça c'est pas très intéressant, il faut que je prenne sinus qa égale 0, donc qa égale 0 ou pi. Si je prends qa égale 0, ce que j'obtiens ici, c'est j prime plus j, puisque cosinus de 0, ça vaut 1. Donc ça, ça ne va pas être nul, parce que j et j prime, je les prendrai toujours positifs. Donc ce qu'il faut, c'est que je prenne plutôt qa égale plus pi ou qa égale moins pi. À ce moment-là, le sinus vaut toujours 0, mais le cosinus ici vaut moins 1. Donc j'ai j prime moins j, là-haut. Et si je prends j prime égale j, eh bien à ce moment-là, je sais que je peux arriver au pôle nord. Donc je sais que le pôle nord est atteint en prenant qa égale pi ou qa égale moins pi. En prenant j' égale j et delta positif, à ce moment-là, je peux aller au pôle nord. Et de la même façon, je peux aller au pôle sud en prenant la même chose pour qa et pour j' égale j et en prenant delta négatif. Donc tous les points de la sphère de Bloch peuvent être atteints. Je ne vais plus me limiter à l'équateur et ça, vous allez voir, ça va tout changer. Donc quel est le diagramme de phase, phase au sens phase topologique, que je peux attendre pour ce modèle de Rice et Mêlée compte tenu de ce nouveau vecteur H, de ces énergies qui sont donc, si je prends, oui, j'ai dit, je ne l'ai peut-être pas dit, mais je prends toujours maintenant EA plus EB égale 0 ici. Donc le terme en identité, je le prends nul, c'est simplement une convention de mon choix d'énergie. Donc mes énergies, c'est simplement plus ou moins module de H. Donc qu'est-ce que je peux attendre comme diagramme de phase? Donc ce modèle, il est caractérisé par deux paramètres sans dimension. Il y a trois paramètres dimensionnés qui sont J', J et delta, mais je peux toujours décider de mesurer toutes mes énergies, par exemple, par rapport à J. Donc les paramètres sans dimension, c'est J' sur J et delta sur J. Et si je vous rappelle ce qu'on a trouvé pour le modèle SSH, donc le modèle SSH, c'était delta égale 0. Donc si je me mets dans un plan pour ces deux paramètres, si je mets delta sur J en ordonnée, eh bien si je considère l'axe ici, Y égale 0, ça, c'est ce qu'on a vu ensemble dans les cours précédents, c'est le modèle SSH. Et ce qu'on a vu, c'est donc que sur cette ligne ici, pour le rapport J' sur J, j'avais un point singulier qui était le point J' égale J égale 1. À gauche de ce point, j'étais dans la zone topologique. À droite de ce point, j'étais dans la zone normale. Et je vous rappelle que si je me limite à bouger sur cette droite-là, eh bien, je passe de la phase normale à la phase topologique à travers ce point singulier, donc J' égale J, et c'était un point pour lequel le gap s'annulait, les deux, la bande supérieure et la bande inférieure se touchaient. Et je vous rappelle aussi que cette robustesse topologique, le fait qu'il fallait que le gap s'annule pour passer de topologique à normal, eh bien, c'était lié à ce que j'avais appelé la symétrie de sous-réseau, le fait que je n'avais pas d'élément de matrice entre un site A et lui-même. Ça, évidemment, je le perds avec le modèle Rice-Mêlée, puisque maintenant, j'ai des termes sur la diagonale, un A et un B qui sont différents. Donc, je perds la symétrie de sous-réseau, et donc la question, c'est qu'est-ce que je perds? Puis après, oui, je vais perdre beaucoup de choses, parce que maintenant, je vais pouvoir partir d'un point ici, et puis passer dans ce plan delta sur J, J prime sur J, et puis aller dans la zone topologique sans jamais fermer mon gap. Donc, je n'ai plus maintenant un point singulier qui me sépare les zones topologiques des zones normales. En augmentant mon espace des paramètres, c'est-à-dire en m'autorisant un delta non nul, eh bien, ma classification que j'ai trouvée pour SSH, je la perds. Et c'est l'idée que la symétrie de sous-réseau, c'est elle qui me permettait d'avoir cette classification topologique, mais si je perds la symétrie, eh bien, je perds la classification du même coup. Heureusement, vous allez voir, on ne perd pas tout. On a d'autres choses qui apparaissent, et ces choses sont très intéressantes. Mais c'est un point important à noter, c'est que la perte de la symétrie de sous-réseau entraîne la perte de la robustesse topologique au sens où on l'a vu dans les cours précédents. Donc par quoi est-ce qu'elle va être remplacée? Eh bien, bon moyen pour voir, enfin pour commencer à pressentir par quoi elle va être remplacée, c'est de se poser le problème de la phase géométrique, ou la phase de Berry, ou la phase de Zach, comme on l'avait appelé dans ce cas particulier. Cette phase de Zach, je vous rappelle ce que c'est simplement l'intégrale de la connexion de Berry sur la zone de Brillouin. C'est-à-dire quand je parcours toute la zone de Brillouin, ce qui revient à faire une boucle fermée dans l'espace des paramètres, puisque deux points opposés de la zone du Brillouin sont en fait le même point physique. Quand je passe de Q égale moins pi sur A à Q égale plus pi sur A, bien je retombe sur le même Hamiltonien. Eh bien, on avait dit que quand je parcourais toutes ces zones de Brillouin, donc je fais une boucle fermée dans l'espace des paramètres, et j'ai donc une phase géométrique associée à ça, et c'est ça qu'on avait appelé la phase de Zach. Cette phase de Zach, on l'a calculée en intégrant la connexion de Berry à moins 1, et cette connexion de Berry, je vous l'ai rappelé tout à l'heure. Donc on peut se poser la question, que vaut donc la connexion de Berry quand on quitte le modèle SSH pour autoriser d'explorer toute la sphère de blocs? C'est-à-dire pour autoriser finalement des contours qui ne restent pas sur l'équateur comme le contour violet, là, mais des contours fermés qui sont comme le contour rouge, ici. Alors, toujours dans ma série des rappels, je vous rappelle que cette phase géométrique, là, sur une sphère de blocs, on avait trouvé un moyen simple de la calculer. Je vous avais dit que cette phase géométrique, finalement, je la pouvais l'obtenir en regardant bien le contour, plus précisément en regardant l'angle solide que ce contour délimitait. Plus précisément encore, si j'ai mon point sur la sphère de blocs qui décrit un certain angle solide, donc grand oméga, eh bien, ce qu'on avait vu ensemble, c'est que la phase géométrique, c'était simplement la moitié de cet angle solide. Donc, dans le cas de la trajectoire violette là, sur l'équateur, l'angle solide, c'est 2π, c'est la moitié de 4π c'est radian, et la moitié de 2π, c'est π. Et là, donc la phase de Zach, ça valait π pour le contour violet. Évidemment, elle sera plus petite que π pour le contour rouge, puisque l'angle solide, lui, sera plus petit que 2π cette fois-ci. Donc, essayons de mettre tout ça ensemble. Comment on se calcule la phase de Zach pour le modèle de Rice et Mêlée? Ben, je ne vais pas faire le calcul explicite, parce que c'est un petit peu... c'est pas très drôle, quoi. Il y a beaucoup d'angles à manipuler, mais simplement, croyez-moi sur parole, je peux calculer les angles θ et φ qui caractérisent le vecteur H, simplement en disant que mon vecteur H que je vous ai écrit tout à l'heure, J' plus JQA, J sinus QA delta, eh bien je le reparamètre sous la forme de sinus θ cos φ, sinus θ sin φ cos θ. Donc je peux inverser et trouver θ et φ en fonction de J', J et delta, et donc je suis capable de calculer la connexion de Berry. Et une fois que j'ai la connexion de Berry, je peux calculer donc l'intégrale de la phase de Zach, à savoir la moitié de l'angle solide. Alors, je vais vous faire une représentation graphique du résultat. Donc je cherche une phase, la phase de Zach. Cette phase, c'est un nombre qui est compris entre 0 et 2π. Enfin, ça, je peux la mettre où je veux, mais en fait, donc ça peut varier entre 0 et 2π si je me contrains ce segment-là. Je vous propose de la représenter par un petit vecteur. Plus précisément, je vais dire que si la phase de Zach vaut 0, mon vecteur pointe vers le haut. Et puis ensuite, eh bien, pour une phase non nulle, ce sera simplement l'angle avec lequel je dois tourner mon vecteur. Donc si la phase vaut pi sur 2, eh bien, la phase de Zach, ce sera un vecteur horizontal. Si la phase de Zach vaut pi, ce sera un vecteur qui pointe vers le bas. Et puis ensuite, 3pi sur 2 sera un vecteur horizontal, mais dans l'autre sens, etc. Donc le résultat, encore une fois, pour SSH, que vous avez déjà vu, donc, c'est que quand je suis dans la zone normale, ici, eh bien, mon vecteur sur la sphère de bloc qui fait simplement un petit aller-retour comme ça, angle solide nul, donc phase de Zach nul, puisque c'est la moitié de l'angle solide, donc phase de Zach nul, je représente par un petit vecteur qui pointe vers le haut. Si je suis sur la partie topologique, qui est là, angle solide qui vaut 2π, phase de Zach qui vaut π, donc je le représente par un petit vecteur qui pointe vers le bas, avec donc une discontinuité au point singulier. Toute la question est de savoir que devient cette discontinuité quand je vais maintenant explorer tout le plan. Eh bien, le résultat est là. Donc là, encore une fois, ça résulte du calcul de paramétrage des angles en fonction des J' et J et tout ça, mais croyez-moi sur parole, on voit une figure qui est très, je pense, significative. On voit ici, en fait, une structure de tourbillon. autour de la phase de Zach, autour de ce point singulier. C'est-à-dire qu'elle part ici, et le contour que je vous proposais de faire ça, eh bien, ça consiste à passer continuellement donc d'un vecteur qui pointe vers le haut à un vecteur qui pointe vers le bas. Et une question naturelle qu'on peut se poser après, au moins pour ceux qui sont habitués au tourbillon quantique, c'est que se passe-t-il si maintenant je fais un tour complet ici ? Est-ce qu'il y a le fait que je vais voir donc un enroulement complet de ce petit vecteur-là, est-ce qu'il y a une manifestation de ce tourbillon sur la physique du problème ? Et c'est exactement ça qui se cache derrière les pompes adiabatiques. Les pompes adiabatiques, c'est donc une topologie qui vient se substituer à la simple topologie sur cette ligne-là. C'est une topologie que je trouve quand j'explore le plan, quand je vais me promener et que je fais des contours fermés autour de ce point singulier-là, eh bien, j'ai quelque chose qui est, là encore, robuste, peu importe la forme exacte du contour, pourvu que j'entoure ce point, et c'est là que les pompes adiabatiques apparaissent. Bien, alors avant de vous présenter les pompes adiabatiques, je voudrais quand même vous montrer que tout ça, ça a bien, c'est bien concret, c'est-à-dire que c'est bien quelque chose qu'on sait réaliser dans les laboratoires, et je voudrais vous parler donc d'une réalisation qui est faite avec des atomes froids et des réseaux optiques et des super réseaux optiques. Je vous avais parlé la dernière fois plutôt d'une application en photonique, avec des cavités et des puits quantiques à l'intérieur de cavités. Là, je vous parle d'une application en atomes froids. Les deux systèmes sont toutes les deux très, très utiles pour explorer cette topologie de manière fine. Alors, les réseaux optiques. Les réseaux optiques, ça a fait l'objet de plusieurs cours ici même dans les années précédentes, donc je ne vais pas vous en dire beaucoup, je vais juste vous en dire le minimum pour que tout soit clair, j'espère, dans ce qui va suivre, mais je ne vais pas faire un cours entier sur les réseaux optiques ici. En réseau optique, à la base, au moins à une dimension, c'est très simple, c'est simplement une onde lumineuse stationnaire avec, où je superpose une onde progressive de vecteur k et une onde progressive de vecteur moins k. Cette onde lumineuse, elle a une longueur d'onde lambda, et donc le nombre d'ondes k, c'est simplement 2π sur lambda. Quand je superpose comme ça ces deux ondes progressives, j'obtiens une onde stationnaire, avec une intensité qui est modulée dans l'espace, sous la forme I égale I0 sinus carré kx, et j'obtiens donc une intensité qui est périodique d'espace, avec une période A égale lambda sur 2. Si je mets un atome dans cette onde stationnaire, l'atome va, à cause de l'interaction dipôle électrique, va avoir un dipôle induit à l'intérieur de lui-même, enfin les électrons de l'atome vont avoir un dipôle induit. Ce dipôle induit, en première approximation, je peux le traiter comme étant proportionnel au champ électrique de la lumière, donc alpha fois E lumière, et ce dipôle induit réinteragit avec le champ électrique pour donner donc une énergie d'interaction qui est 1/2 de alpha fois le champ électrique au carré, et le champ électrique au carré étant proportionnel à l'intensité de la lumière, eh bien, j'obtiens un potentiel, c'est l'énergie donc dipolaire électrique, j'obtiens un potentiel dipolaire, V de x, qui lui aussi varie en sinus carré kx avec une amplitude V0. Et c'est la seule chose dont j'ai besoin pour la suite, c'est dire que quand je place un atome dans une onde stationnaire, eh bien, je lui donne une énergie potentielle V de x qui est V0 sinus carré kx. Alors, un mot sur les unités naturelles pour ce problème. Donc, l'unité naturelle de longueur, ça va donc être la longueur d'onde, lambda, ou si vous voulez, la période lambda sur 2. Ça, j'utilise des faisceaux lumineux normaux, je dirais, donc c'est de l'ordre du micron, de la fraction de micron, 0,5 micron. Et naturellement, comme mon atome a une certaine masse m et que je me donne une unité de longueur, comme j'ai en plus la constante de Planck à ma disposition, eh bien, j'ai une unité naturelle d'énergie pour le problème. C'est une unité naturelle d'énergie, c'est l'énergie de recul, h bar 2 k2 sur 2m, c'est en fait simplement l'énergie cinétique qu'acquiert un atome quand il est initialement au repos et qu'il absorbe un photon. Quand il absorbe un photon, il gagne l'impulsion h bar k, donc il gagne l'énergie cinétique h bar 2 k2 sur 2m. Et cette énergie, si je la convertis en fréquence, en utilisant E égale h nu, eh bien ça nous met dans la gamme de fréquences de quelques kilohertz à quelques dizaines de kilohertz, ou si vous préférez, des échelles de temps qui sont de laquelle quelques dizaines de microsecondes à quelques centaines de microsecondes. Voilà, donc ça, c'est les échelles de temps, d'énergie, de longueur pertinentes pour ce type de problème. Alors, quand je place un atome donc, dans ce potentiel ici, V0 sinus carré kx, je peux chercher les états propres du mouvement du centre de masse de l'atome. Donc, je prends simplement P carré sur 2m, qui est l'énergie du centre de masse, l'énergie cinétique du centre de masse, plus V0 sinus carré kx. Je cherche les états propres en utilisant le théorème de Bloch, et je trouve, sans aucune surprise, des bandes d'énergie. Donc là, je trace en fonction du moment de Bloch Q qui, est donc, qui varie entre moins K et plus K, pour ce problème de périodicité lambda sur 2, Q varie entre moins K et plus K, je trouve les énergies, donc EQ pour la énième bande, mesurées en unité d'énergie de recul, puisque je vous dis, c'est l'énergie, l'unité de, l'échelle d'énergie naturelle pour ce problème. Là, j'ai pris un potentiel V0 qui valait 6 énergies de recul, et je trouve donc ces bandes-là. On peut s'intéresser à la bande du bas. La bande du bas, pour ce potentiel-là, V0 égale 6 fois l'énergie de recul, eh bien, j'obtiens une bande du bas, donc là j'ai fait un zoom simplement en dilatant l'échelle en Y, eh bien, je vois qu'elle est très bien ajustée par la courbe rouge qui est simplement une fonction sinusoïdale, et ça me permet de dire que finalement si je m'intéresse simplement à la dynamique des atomes dans la bande du bas, eh bien, c'est très bien décrit par l'hamiltonien de Hubbard, puisqu'on avait vu ensemble que l'hamiltonien de Hubbard était caractérisé précisément par une relation de dispersion pour sa bande unique qui était EQ égale moins 2J fois cosinus QA plus une constante. Eh bien là, je vois que la résolution numérique du problème de l'atome dans l'onde stationnaire me donne bien une variation sinusoïdale, avec en l'occurrence, si je fais un ajustement donc de la courbe bleue qui est le résultat numérique par la courbe rouge qui est le cosinus, avec un coefficient donc devant, grand J, qui va être le saut tunnel effectif, qui vaut à peu près un vingtième d'énergie de recul. Voilà, donc pour un réseau simple, tout est bien sous contrôle, et avec des profondeurs relativement modérées, quelques énergies de recul, on rentre, au moins pour la bande du bas, dans le régime de liaison forte, qui est celui qu'on a exploré jusqu'à maintenant. Maintenant, passons à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire à faire de la topologie. Avec le modèle de Hubbard seulement, on avait vu ensemble qu'il n'était pas question d'avoir des choses topologiques intéressantes, donc il faut enrichir pour passer à SSH ou à rails semêlés. Et pour ça, donc, une technique qui est bien adaptée dans la physique des atomes froids, ça consiste à superposer deux ondes stationnaires. La première onde, à lambda, qui est celle que je vous ai déjà proposée, et puis, donc, typiquement lambda, beaucoup d'expériences sont faites avec un lambda dans le vert, c'est exactement le vert qui sert pour le pointeur laser, d'ailleurs, c'est 532 nanomètres, et puis une deuxième onde à deux lambda, donc plutôt dans l'infrarouge, cette fois-ci à 1064 nanomètres, et on superpose donc deux réseaux de ce type. Donc, le réseau principal à lambda, en sinus carré KX, c'est le même que dans les diapositives qui précèdent, et puis un deuxième réseau, longueur d'onde deux fois plus grande, donc nombre d'ondes K deux fois plus petit, donc qui va être en sinus carré KX sur 2, et a priori, la position des nœuds et des ventres du réseau principal n'a pas de raison de coïncider avec la position des nœuds et des ventres du réseau secondaire, donc j'introduis ici un phi, qui est simplement le décalage entre les nœuds et les ventres du réseau principal et ceux du réseau secondaire. Et dans tout ce qui va suivre, vous allez voir que l'intensité de ce réseau secondaire est très faible par rapport au réseau principal. Le réseau principal, je vous ai dit, je le prends de quelques énergies de recul, j'avais pris 6 tout à l'heure. Le réseau secondaire, lui, va être très faible, mais ça va être suffisant pour faire la physique intéressante. Alors, qu'est-ce qu'on obtient comme potentiel ? Le réseau principal, donc, je le réécris ici, c'est simplement le sinus carré KX que j'avais dessiné tout à l'heure, donc là, il n'y a rien de spécial. Et maintenant, je vais ajouter à ce réseau principal ce réseau secondaire. Qu'est-ce qu'on obtient ? Donc tout va dépendre du choix de la phase, phi, ici. C'est-à-dire tout va dépendre où est-ce que je mets les minima du réseau principal, du réseau secondaire par rapport au réseau principal. Première possibilité, prendre phi égale plus ou moins pi sur 2 là-dedans. Alors si vous prenez phi égale plus ou moins pi sur 2, ça veut dire donc que je décale de pi sur 2, donc les minima du secondaire par rapport au principal, ça veut dire que le réseau potentiel secondaire va prendre la même valeur à tous les minima du réseau principal. Donc ces minima, je les ai appelés A, B, AB pour préparer le terrain. Et ce réseau secondaire prend la même valeur partout, ici. En revanche, il aura ses nœuds ici, par exemple, et ses ventres là. Donc il a un ventre ici. Donc s'il a un ventre ici, ça veut dire qu'il va augmenter l'énergie potentielle en ces points-ci. En revanche, ici, il a un nœud, donc il ne change pas la hauteur de la barrière. Donc, si je la prends à 6 ER, comme tout à l'heure, eh bien, elle va rester à 6, ici. En revanche, là, je l'ai augmenté, je l'ai passé à 8. Qu'est-ce que ça a comme effet, ça ? Eh bien, ça a comme effet de dissymétriser les sauts tunnels. C'est-à-dire qu'ici, pour passer du site A1 au site B1, eh bien, j'ai une barrière relativement faible à franchir, c'est mon J' ici. En revanche, pour passer du site A1 au site B0, eh bien, j'ai une barrière plus haute à franchir, c'est ce que j'ai appelé grand J. Donc là, quand je fais ça, eh bien, je réalise le modèle SSH, en fait, je le réalise dans sa phase normale, en réalisant un J' qui va être plus grand que J, puisque J' correspond à une barrière plus basse, donc c'est plus facile de sauter du site A1 au site B1. Ça, c'était en prenant phi égale moins pi sur 2. Donc ça revenait à mettre les nœuds ici pour le réseau secondaire et puis les ventres là. Si maintenant je passe à phi égale plus pi sur 2, c'est ce qui est écrit ici, à ce moment-là, les ventres du réseau secondaire vont passer ici, les nœuds du réseau secondaire vont passer là, et cette fois-ci, la barrière la plus haute à franchir, elle est à l'intérieur de la cellule. Alors que là, j'ai une barrière relativement basse à franchir. Donc là, je me retrouve avec un coefficient J' ici, pour passer de 1 à B1, qui va être plus petit que le coefficient J, puisque j'ai une barrière plus haute à franchir. Donc simplement en basculant la phase phi entre plus pi sur 2 et moins pi sur 2, eh bien, je peux réaliser les deux dimérisations du réseau SSH. Et puis maintenant, eh bien, je ne suis pas condamné à prendre phi égale plus pi sur 2 ou moins pi sur 2, je peux prendre n'importe quelle valeur pour phi. Je peux prendre en particulier phi égale 0. Si je prends phi égale 0, ben à ce moment-là, les minima du réseau secondaire coïncident avec ceux du réseau principal, mais j'en ai deux fois moins pour le réseau secondaire, puisqu'il a une période deux fois plus grande. Donc je peux avoir un minimum ici pour le réseau principal et pour le réseau secondaire. Donc là, je vais rester à 0. Ici aussi, les deux minima coïncident, mais en revanche, là, j'aurai un minimum du réseau principal et un maximum du réseau secondaire. Donc je monte ce site-là par rapport à celui-ci. Donc qu'est-ce que je fais en faisant ça? Eh bien, je dissymétrise mes sites A1 et B1. Vous voyez que le site A1 est plus profond que le site B1. Donc l'énergie de A1 sera plus basse que l'énergie de B1, si je prends l'étalier d'énergie minimum là-dedans. Et donc ça réalise ce que j'ai appelé delta positif, puisque delta, je vous rappelle, c'était l'énergie de B par rapport à l'énergie de A. Donc ça, c'est un delta positif, où B est plus haut que A. C'est de la même façon, si j'avais pris phi égale pi, j'aurais B qui serait plus petit que A, et j'aurais eu à ce moment-là delta négatif. Alors ce qui est intéressant dans ce cas de figure-là, précisément, prenant phi égale 0, c'est que vous voyez que l'élément de matrice pour sauter de A1 à B1 est le même que pour sauter de A1 à B0, parce que finalement, mon potentiel est complètement symétrique par rapport à 0, donc la hauteur de la barrière que je dois franchir pour aller de là à là est la même que pour aller de là à là. Donc ça, ça me fait J égale J' et delta non nul. C'était ça qui me permettait d'atteindre l'épaule. Donc je le signale, ce sera utile pour la suite. Voilà, donc avec ce réseau-là, ce super réseau, on peut comme ça réaliser toutes ces phases à une dimension qu'on a vue, SSH et Rice-Mele. Alors, est-ce que le modèle de liaison forte est bien adapté pour décrire ça? Eh bien, la réponse est oui, c'est-à-dire que si, encore une fois, je refais une diagonalisation numérique avec le théorème de Bloch du mouvement de mon atome dans ce potentiel V de X, là, eh bien, je trouve un diagramme de bande d'énergie qui a l'allure suivante, avec donc des bandes qui sont moins pour en bas, regroupées par paires, deux bandes là, puis deux bandes juste au-dessus, etc. Et si je fais un zoom sur ces bandes-ci, eh bien, voilà ce que vous obtenez, c'est ce qui est tracé en bleu, en trait plein. Et je peux faire un ajustement très bon, c'est la très pointillé, en prenant le résultat du modèle SSH. Là, je me suis mis dans le cas du SSH, j'ai pris phi égale pi sur 2. Je peux faire un ajustement très bon dans le cas du modèle SSH. Donc, je peux décrire la dynamique de mes atomes très bien dans le cadre de modèle de liaison forte, avec donc, les paramètres ajustés qui seront J égale 0,11 énergie de recul et J' égale 0,02. Alors, une petite remarque sur ces valeurs. Je suis parti ici d'un V principal qui valait 6 ER comme tout à l'heure. Je vous avais dit tout à l'heure que ça me donnait un J qui valait, je crois, 0,05 ER. J'ai rajouté un tout petit réseau secondaire, hein, 0,2 ER, c'est 30 fois plus petit que le 6 là. Et malgré tout, ça suffit pour désymétriser radicalement J et J'. Il suffit de pas grand-chose sur les hauteurs des barrières pour que un soit plutôt favorisé et l'autre soit plutôt baissé. Ça, c'est la magie de l'exponentielle qui intervient dans les coefficients tunnels. Il suffit, quand vous avez un coefficient tunnel qui dépend donc de l'exponentielle, qui varie comme une exponentielle par rapport à la largeur de la barrière, il ne suffit pas grand-chose de modification de barrière pour modifier beaucoup le coefficient tunnel. Eh bien, c'est exactement ce qu'on voit ici. Il ne suffit pas grand-chose dans le réseau secondaire pour dissymétriser radicalement ce qui se passe en J et ce qui se passe en J'. Alors, je voudrais, pour terminer cette partie sur les super-réseaux, vous montrer tout de suite un premier résultat, qui est un résultat qui a été obtenu à Munich il y a quelques années pour mesurer précisément cette phase de Zach dans un super-réseau. Et avant de vous décrire cette expérience faite dans le groupe d'Emmanuel Bloch, je voudrais vous rappeler un résultat que je vous avais dit, je crois, au premier cours, que cette phase de Zach, il fallait quand même faire attention quand on la manipulait, elle n'était pas complètement physique, cette phase de Zach, parce qu'elle dépendait quand même de la manière dont j'avais paramétrisé mes sites, c'est-à-dire elle dépend de la manière de choisir la cellule unité. Si vous donnez une chaîne donnée, comme celle-ci, que j'ai représentée de la même façon en dessous, je peux choisir d'appeler ma cellulité le gris, ici, et puis après, toutes les autres s'en déduisent par translation, mais je pourrais tout aussi bien dire que c'est ça, ma cellulité. Et à ce moment-là, si je choisis l'une ou l'autre, eh bien, je n'ai pas la même phase de Dirac, parce que une paramétrisation va me dire que je suis dans un domaine topologique et l'autre va me dire que je suis dans le domaine normal. Alors, tant qu'on étudie des états de bord, ça ne pose pas de problème, parce que dès que j'ai un bord, la paramétrisation, elle est imposée. Je dois mettre mes dimères, j'ai une façon unique de les mettre. Mais quand ma chaîne est infinie, quand je n'ai pas de bord, je peux me dire ça, la paramétrisation du haut est aussi bonne que celle du bas. Il y a néanmoins quand même quelque chose qui est physique, c'est que si je me donne une paramétrisation donnée, si je me donne une paramétrisation, pardon, et si dans le courant de l'expérience, je réalise simultanément J' plus grand que J et J' plus petit que J, et si je compare le résultat pour J' plus grand que J et le résultat pour J' plus petit que J, là je sais que je passe de normal à topologique ou de topologique à normal, mais dans tous les cas, la différence vaudra pi. Donc la vraie grandeur physique, ce n'est pas la phase de Dirac elle-même, c'est la différence entre les deux paramétrisations, quand on se limite à une chaîne infinie. Et c'est exactement ça qui a été étudié à Munich, c'est-à-dire qu'ils ont mesuré cette différence de phase par une méthode interférométrique en inversant les valeurs de J et J' au cours de la séquence expérimentale. Et vous savez comment est-ce qu'on inverse les valeurs de J et J'? Ça consiste simplement à changer la phase du réseau secondaire par rapport à la phase du réseau principal, à faire sauter de moins pi sur 2 à plus pi sur 2. Alors, pour vous décrire une version simplifiée de l'expérience de Munich, eh bien voilà ce qu'ils ont fait. Je vous dirai un petit peu après comment ils ont fait de manière plus complète, mais c'est une expérience assez compliquée quand on cherche à tout suivre, donc je préfère commencer par une version simplifiée. Vous partez avec une particule qui est dans un paquet d'ondes autour d'un certain moment Q initial, dans un super réseau pour lequel vous avez pris une paramétrisation donnée, et vous avez donc une phase phi égale moins pi sur 2, J' plus grand que J. Vous appliquez une force uniforme sur cette particule dans le super réseau. Cette force uniforme va accélérer la particule, c'est le phénomène des oscillations de Bloch, sur lequel on aura l'occasion de revenir en détail dans le cours prochain, donc là je me contente de le mentionner, mais beaucoup d'entre vous le connaissent, et pour ceux qui ne le connaissent pas, ça veut simplement dire que je vais avoir une variation linéaire avec le temps du moment de Bloch Q sous la forme h bar dq sur dt égale f. C'est-à-dire que Q de t va être Q initial plus une fonction linéaire du temps, ft sur h bar. Ça va donc me faire passer mon paquet d'ondes de la valeur QI à une valeur QF différente. Et une fois que j'ai parcouru toute la zone de Bloch, c'est-à-dire une fois que FT sur H bar est égal à 2π sur A, eh bien, j'ai donc parcouru toute la zone de Brillouin. Et à ce moment-là, eh bien, normalement, j'ai accumulé ma phase de Dirac. Donc à ce moment-là, eh bien, on change la dimérisation. On passe de φ égale moins π sur 2 J prime plus grand que J à φ égale plus π sur 2 J prime plus petit que J. Et en même temps, on inverse le signe de la force pour que la particule parcourt la zone de Brillouin, mais dans le sens inverse. Et à ce moment-là, eh bien, elle va accumuler à l'aller la phase de Dirac correspondant à une certaine dimérisation, au retour, avec un signe moins, la phase de Dirac correspondant à l'autre dimérisation, donc j'ai fait effectivement la différence de phase, et si je mesure la phase accumulée, eh bien, je vois si cette quantité-là vaut bien plus pi ou moins pi, comme je l'attends. Donc l'expérience de Munich, dans une version plus réaliste et plus compliquée, comme je le disais, une des raisons pour laquelle il fallait que ce soit plus compliqué, c'est que pour induire les oscillations de Bloch, eh bien, on prend des atomes qui ont un moment magnétique non nul, on applique un gradient de champ magnétique sur ces atomes, et c'est donc la force de Stern-Egerlach qui va accélérer les paquets d'ondes atomiques, mais il y a des fluctuations de champ magnétique, donc il faut s'affranchir de ces fluctuations de champ magnétique. Pour ça, on utilise une technique d'écho de spin, donc il faut en plus inverser des champs. Donc, au bout du compte, le schéma expérimental de Munich, tel qu'il est dans leur publication, ressemble à ça. On fait une séquence interférométrique que ceux d'entre vous qui font de l'interférométrie atomique connaissent bien. C'est une séquence où on applique des impulsions micro-ondes pour faire basculer le spin des atomes, une séquence pi sur 2, pi, pi sur 2. Plus précisément, on part initialement avec des atomes qui ont donc un moment magnétique et dont le spin pointe tous vers le haut. Une première impulsion pi sur 2 prépare une superposition cohérente de plus et de moins, comme ceci. Ensuite, on applique le gradient de champ magnétique. Les plus vont partir d'un côté, les moins vont partir de l'autre. C'est l'expérience de Stern-Egerlach, si vous voulez, mais dans l'espace des moments, là. Au moment où chacun a fait la moitié de la zone de Brillouin, à ce moment-là, on met l'impulsion pi, ici. Je ne sais pas si c'est écrit là, non, bon, peu importe. On met l'impulsion pi ici. Cette impulsion pi, elle a pour effet de renverser les spins. Elle a pour effet aussi, on renverse aussi le gradient de champ magnétique, Et ça, ça a pour double effet en fait, de faire changer de bande. C'est ça la complication, c'est qu'en fait, on change de sous-bande au cours de l'expérience. Et ensuite, les atomes reviennent vers le centre de la zone de Brillouin, se regroupent ici, et là, il y a une dernière impulsion pi sur 2 qui vient lire la phase accumulée, la phase relative entre le chemin qui est passé à gauche et puis le chemin qui est passé à droite. Vous voyez que c'est un petit peu prise de tête quand on veut l'écrire complètement, mais ça correspond bien au cahier des charges, c'est-à-dire ça mesure bien cette différence de phase. Et le résultat qu'on obtient est écrit ici. Donc ce qu'on utilise comme paramètre de contrôle, c'est la phase de l'impulsion micro-onde finale, c'est-à-dire la phase du dernier pulse pi sur 2 qui est là. Et on regarde donc le nombre d'atomes dans l'état plus, c'est-à-dire le produit de cette impulsion pi sur 2. Quand j'ai le plus et le moins qui arrivent ici et que je fais la dernière impulsion pi sur 2, certains atomes vont se retrouver dans plus, d'autres vont se retrouver dans moins. Je mesure combien j'en ai dans plus, ce qui mesure la phase relative juste avant l'impulsion pi sur 2. Et ce qu'on trouve, eh bien, c'est qu'on trouve deux résultats opposés, suivant qu'on a fait ou non le changement de dimérisation SSH au milieu du cycle, au moment de l'impulsion pi, quand on est sur le bord de bande à cet endroit-là. C'est ça que je veux dire. Voilà. Et donc, si on ne fait pas de changement, on a la courbe noire. Si on fait le changement, on a la courbe bleue. Et donc, on mesure la différence de phase. Et ça, ça nous donne exactement le delta phi, différence de phase de Zach entre les deux dimérisations. Et on attend un résultat qui vaut pi. Et on trouve 0,87 plus ou moins 0,2 fois pi. C'est, je dirais, tout à fait compatible dans les barres d'erreur avec ce qu'on attend. Alors là, je vous l'ai décrit pour SSH. Le groupe de Munich l'a aussi étendu cette mesure au modèle de Rice-Mellé. C'est encore un petit peu plus compliqué, donc je ne vais pas le mentionner ici, mais vous avez toutes les références dans les notes. Voilà. Bien, ben, j'en viens maintenant aux pompes adiabatiques, dans le temps qui reste. Et ces pompes adiabatiques, donc, je vais commencer par vous les décrire de manière très qualitative, et vous décrire en particulier une expérience très jolie qui a été faite à Kyoto. Et puis ensuite, eh bien, je vous propose deux méthodes pour aborder ces pompes adiabatiques. Une méthode qui sera une méthode géométrique, que je vais faire ici. Et puis il y a une méthode qui, à mon avis, est la méthode la plus rigoureuse, qui est complètement algébrique. C'est le paragraphe 5 des notes là, que vous devez avoir. Ça, je ne vais pas le faire ici, aujourd'hui, parce que cette méthode que je qualifie d'algébrique et rigoureuse, en fait, elle est très proche de tout ce qu'on va faire à deux dimensions plus tard. Donc, je l'ai mise ici dans les notes pour que cette section sur les problèmes unidimensionnels soit auto-cohérente, hein, mais c'est-à-dire soit self-contained, on dit en anglais, je ne sais pas comment on dit, auto-contenu, mais ce n'est pas la peine de le faire deux fois, donc on le fera tranquillement pour les problèmes à deux dimensions. Donc là, je vais me contenter de faire, d'une part, quelque chose de très qualitatif dans cette partie 3, et puis quelque chose qui sera géométrique, quantitatif, mais géométrique, dans la partie 4. Et la partie 5, encore une fois, vous êtes bien sûr les bienvenus pour aller la lire, mais je ne vais pas la traiter ici. Alors, ces pompes adiabatiques, à quoi ça ressemble? Et d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une pompe adiabatique? De manière très générale, une pompe adiabatique, c'est quelque chose qui transporte un fluide de manière cyclique. J'ai dessiné ici la vis d'Archimède, qui est quelque chose de fameux et qui est finalement une très bonne illustration de ce que je veux dire. Vous avez un fluide, qui est donc de l'eau ici. Ce fluide est contrôlé par un certain hamiltonien, en l'occurrence c'est le système mécanique qui est ici, en bois ou en métal, et ce système mécanique effectue une évolution périodique, c'est la manivelle que je tourne, et quand je fais donc une évolution périodique de ce système mécanique, eh bien le fluide lui n'est pas revenu à son état initial, mais il y a eu une certaine quantité de matière qui a été transportée. Et cette quantité de matière ne dépend pas de la vitesse à laquelle j'ai fait le tour, au moins si je ne le fais pas trop vite, si je ne fais pas plein de turbulences au moment où je plonge dans l'eau ici, eh bien peu importe si je fais mon tour lentement ou à moyennement vite. J'ai toujours la même quantité d'eau qui est produite, qui est transportée par tour de manivelle. Eh bien, ce qui va nous intéresser, c'est la version quantique de cette pompe-là. C'est là qu'on va voir apparaître une quantification de la quantité transportée ou du déplacement du fluide. Et c'est le premier qui a compris cette chose-là, c'est Taules, dans un article qu'il a publié en 1983. C'est un article qui est directement inspiré du très fameux article signé par le même Taules, Komoto, Nightingale et Denlich, qui est un article qui est vraiment fondateur, parce que c'est là-dedans qu'ils établissaient la quantification de la conductance dans l'effet Hall quantique normal. Et c'est directement en utilisant les concepts du premier article de 82 que Taules a proposé la pompe adiabatique de 83. Alors nous, on fait une démarche inverse. On commence par le système unidimensionnel que Taolès a regardé en 83, pour ensuite passer la semaine prochaine à des choses liées à l'article de 82. Mais bon, ça c'est pour une manière de réécrire l'histoire, si vous voulez. Alors commençons par un premier exemple de pompe adiabatique avec des réseaux optiques, que je qualifie de presque trop simple, parce que si les pompes adiabatiques c'était que ça, ça ne vaudrait vraiment pas le coup de faire un cours là-dessus. Prenez un réseau qui est simplement une onde stationnaire, donc ce n'est même pas un super réseau à ce stade, c'est simplement une onde stationnaire V0 sinus carré KX, mais je vais la translater cette onde, c'est-à-dire que je vais ici mettre comme paramètre de contrôle l'équivalent de ma manivelle sur la pompe d'Archimède, c'est le phi qui est ici. Et je prends un réseau qui est très profond, donc il n'y a pas d'effet tunnel. À l'instant t égale 0, je prends ma phase phi qui vaut 0. Donc j'ai mes minima qui sont en x égale 0, x égale, kx égale pi, etc. Et puis je vais supposer que ma phase phi, je la fais varier lentement en fonction du temps. Je la fais varier lentement pour que mes atomes qui sont au fond des puits de potentiel de mon réseau, eh bien, ils ne soient pas excités, donc qu'ils restent dans l'état fondamental au fond du réseau. Qu'est-ce que je trouve? Eh bien voilà ce que j'ai. J'ai mon initialement à t, l'instant égal à 0, j'ai ce potentiel en sinus carré kx, encore une fois, il est très profond, donc la particule que je mets dans un puits du réseau, ben, elle a une probabilité de passer par effet tunnel très, très, très faible, donc elle reste là. Et puis si maintenant je décale phi en fonction du temps, si maintenant je décale phi en fonction du temps, ici, eh bien mon réseau va se translater, et puis une fois que phi est passé de 0 à pi, eh bien ma particule a bougé d'un pas du réseau, c'est évidemment sans surprise, il n'y a pas grand-chose derrière ça, mais néanmoins, c'est un exemple de pompe adiabatique. Prenons un deuxième exemple un petit peu moins simple, mais qui néanmoins est facile à traiter parce que je vais faire une hypothèse que je suis dans un super réseau, que le super réseau est très profond, et on l'a vu tout à l'heure que le super réseau, lui, va avoir des barrières de hauteur différentes, hein, je vais avoir des barrières hautes et des barrières plus basses, je vais supposer que je n'ai jamais d'effet tunnel à travers les barrières hautes. Dans la partie suivante, la partie 4, et aussi la partie analytique, je relâche cette contrainte. Mais là, pour comprendre ce qui se passe avec les mains, je vais supposer que les barrières hautes sont très hautes et donc je n'ai pas d'effet tunnel à travers elles. En revanche, on va avoir de l'effet tunnel à travers les barrières basses, comme vous allez le voir. Donc là, regardons ce qui se passe. J'ai mon super réseau et je démarre dans cette situation-ci où j'ai mes puits A qui sont bas, mes puits B qui sont hauts, donc c'est ce qui correspond à un delta positif, hein, si vous vous souvenez bien. J' égale J et le delta qui vient dans le... qui dissymétrise A et B, donc il est positif. Bon, mon atome est là. Là, une fois qu'il est là, rien ne se passe vraiment parce que l'effet tunnel de A1 vers B1 est non résonnant, donc ça ne va pas se produire. Et l'effet tunnel de A1 vers A2, là, j'ai trop de barrières à traverser pour que quelque chose se produise. Donc si j'ai mon atome en A1, rien ne se produit. Et je vais donc déformer lentement mon super réseau, de la manière dont je vous ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire que je bouge finalement le réseau secondaire par rapport au réseau principal. Et donc je fais défiler ce que j'avais appelé le paramètre phi tout à l'heure. Donc là, je l'ai fait défiler un petit peu, le B a descendu un petit peu, le A est un petit peu monté, mais à ce stade, rien ne s'est produit. Là, j'arrive à un moment intéressant où maintenant, les deux sites A et B sont à la même énergie. D'accord ? Et je représente ce qui se passe par ces deux ronds-là que je vais expliciter dans un instant. Mais avant ça, je vous dis ce qui se passe juste après. Là, B est passé en dessous de A, et là, maintenant, je dis que tous les atomes sont passés dans le puits B. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, ce qui s'est passé ici, c'est simplement un suivi adiabatique. Si je me limite à un modèle à deux niveaux, pour représenter ce que j'ai là, j'ai donc mes deux niveaux qui sont le puits A et le puits B, et quand je me balade depuis le haut vers le bas, l'énergie du puits A est en train de monter, l'énergie du puits B est en train de descendre, donc les deux énergies se croisent en ce point-ci. Mais par ailleurs, je peux avoir un couplage tunnel parce que là, la barrière est basse, donc j'ai un certain couplage tunnel entre les deux puits. Donc si je trace les niveaux d'énergie de mon système en me limitant à deux niveaux, eh bien, j'obtiens ces traits bleus là. Ici, c'est l'énergie du niveau A. Quand je suis loin ici, ça, c'est l'énergie du niveau B. Quand je passe ici, c'est le moment où les deux énergies sont égales, mais j'ai une levée de dégénérescence à cause du couplage tunnel entre les deux puits. Et puis si je vais loin vers la droite, eh bien, c'est l'énergie du niveau B qui est passée en dessous de l'énergie du niveau A. Ça, ce serait l'énergie du niveau B sans couplage. Le niveau A est ici. Et donc, j'ai ce suivi adiabatique. Si je bouge mon réseau suffisamment doucement, j'ai ce suivi adiabatique. Et initialement, j'étais sur A ici. Et puis là, je finis sur le niveau B. Donc là, j'ai eu un transfert adiabatique du puits A vers le puits B. Maintenant, je continue mon schéma. Là, B continue à descendre. Rien ne se passe. B est toujours là. Je remonte je continue à décrire, à bouger mon réseau secondaire par rapport au réseau principal. Et là, je me retrouve de nouveau avec une coïncidence d'énergie entre ce B-là et ce A-là, avec une barrière basse entre les deux. Vous me direz, ces deux-là aussi sont correspondances d'énergie, mais là, j'ai une barrière haute. Et j'ai dit, barrière haute, pas l'effet tunnel. Donc ça, l'effet tunnel ici, je l'oublie. En revanche, je prends l'effet tunnel en compte là. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement la même chose que ce qui s'est produit ici. Je vais avoir ce suivi adiabatique et mon atome va se retrouver là. Donc, dans un cycle de pompe, avec cette hypothèse, pas d'effet tunnel à travers la barrière haute, on comprend tout de suite qu'un atome initialement sur A se déplace et se retrouve là. Donc, il s'est décalé d'un site. Vous me direz, c'est pas très original, ok. Maintenant, juste pour vous montrer que c'est quand même non évident, supposez que l'atome était initialement en B. Qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, il était en B, là, il va avoir la résonance, il va passer en A, là, il aura une résonance traversée de barrière, il finira là. Donc j'ai un cycle qui est quand même assez amusant, parce que les atomes qui partent en A, ils s'en vont vers la droite, et les atomes qui partent en B, ils s'en vont vers la gauche. Donc c'est moins évident qu'un réseau que je translate, où là, tout le monde va dans le même sens, qui est le sens du réseau. Là, le réseau n'impose pas, a priori, un sens de déplacement vers la gauche ou vers la droite, et suivant que je pars dans A ou dans B, je vais vers la gauche ou vers la droite. Donc c'est quand même déjà assez intéressant. Alors, pour peut-être rendre les choses encore plus claires, revenons à notre tracé que j'avais tout à l'heure pour la phase 2ac. Là. Essayons d'éclaircir quelle est la boucle que je vous ai faite. Je vous ai dit, je pars de cette situation où A est en dessous de B, donc j'ai un delta qui est positif, et puis là, je suis dans la situation où J' est égal à J. Je vous rappelle, c'est quelque chose qui est parfaitement symétrique par rapport à une ligne comme ça, par exemple. Donc j'ai J' égal J. Donc mon point de départ, c'était un point à J' égale J, donc sur 1 ici, et puis un delta positif quelque part par là. Ensuite, quand je suis là, eh bien, je suis avec un J' qui est plus grand que J, puisque J' c'est un effet tunnel à l'intérieur de la cellule, donc barrière basse, J' est grand, oui, ça, alors que J est tout petit, je l'ai même supposé quasiment nul, et delta vaut 0, donc je suis ici. Quand je suis là, B est passé en dessous de A, je me retrouve là, delta négatif, et puis quand je finis ma boucle, ici, je suis ici. Donc ce que j'ai fait là, avec ma pompe adiabatique, eh bien, c'est exactement le cycle dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai fait un cycle qui a entouré le vortex, enfin le tourbillon que j'obtiens en faisant la tracée de la phase de Zach. Donc une pompe adiabatique, c'est ça, le fait qu'elle fonctionne, c'est parce que je viens entourer ce point singulier qui est ici. Et on va le retrouver avec des arguments géométriques un petit peu plus sophistiqués dans la partie 4. Alors, comment est-ce que ça marche expérimentalement? La réponse est oui. Je dirais que ça, c'est un des succès des atomes froids, c'est d'avoir réussi à vraiment bien implémenter de manière très claire ces pompes adiabatiques. Je vous ai dit, la proposition initiale, c'est Thaulès en 1983, mais je pense que c'est légitime de dire que c'est les atomes froids qui ont permis vraiment de la réaliser. Donc, il a fallu attendre pas mal d'années, puisque c'est en 2016, on a eu trois groupes, donc il y a 2 ans à peu près, il y a eu 3 groupes qui ont implémenté des pompes géométriques ou des pompes adiabatiques dans des systèmes d'atomes froids. C'est Kyoto, c'est ça que je vais vous décrire. Il y a eu aussi le groupe d'Emmanuel Bloch à Munich et le groupe de Jan Spielmann au Maryland. Alors la manip de Kyoto, à quoi elle consiste? Elle a été faite avec des atomes fermioniques, des atomes d'ytterbium. Ces atomes d'ytterbium sont placés dans des tubes. Donc c'est dans le plan XY, un réseau optique mais très très fort, donc il n'y a pas de communication entre les différents tubes, simplement ils ont plein de tubes à la fois parce que c'est la méthode dont ils préparent. L'expérience aurait été encore plus pure s'il y avait eu un seul tube, mais donc ils ont fait avec ce qu'ils avaient, donc ils avaient une série de tubes parallèles, indépendants les uns des autres. Donc ces tubes sont verticaux et toute la physique intéressante va se produire le long de la direction verticale. C'est le long de la direction verticale qu'on va appliquer ce réseau et ce super réseau qu'on va moduler de la façon dont j'ai décrite juste avant. Donc on a un laser à la longueur d'onde de 532 nanomètres, qui fait donc un réseau de période lambda sur 2, donc 266 nanomètres, et puis un laser, comme je disais, à 1064 dans l'infrarouge, qui fait donc un réseau secondaire de période 532 nanomètres. Et on va donc appliquer ce super réseau et voir si les atomes se déplacent effectivement le long de l'axe Z. Alors, comment est-ce qu'on regarde ça? Simplement, on prend une photo des atomes, une photo in situ. Donc, ce que vous avez ici à t égale 0, eh bien, ça, c'est ce que vous regardez. Quand vous regardez de côté, vous avez tous ces tubes qui sont les uns à côté des autres. Donc un tube donné, ce serait un petit bâton sur cette image, mais quand vous avez plein de tubes les uns à côté des autres, vous obtenez cette sorte de patate là. Vous appliquez un certain nombre de cycles de pompe, je vais vous donner le résultat plus précis dans un instant, mais disons, appliquons un certain nombre de cycles de pompe, on prend une photo du nuage et on voit que le nuage s'est déplacé là, vers le haut. Et ce qu'on fait, c'est donc qu'on mesure le déplacement du centre de gravité de ce nuage-ci, enfin, de ce nuage-ci par rapport au nuage de référence à t égale 0 qui est là. Donc là, ce sont les deux courbes en bleu et en rouge, et on mesure le déplacement. Et c'est ce déplacement donc, qui nous intéresse, voir si effectivement il est quantifié en unité de période du réseau. Et le résultat, eh bien, c'est que ça marche très bien. Les chercheurs de Kyoto ont fait deux manips. La première manip, bah, c'est la pompe que j'ai qualifiée de presque trop simple tout à l'heure. C'est cette pompe qui consiste simplement à bouger le réseau. Là, on est sûr de ce qui se passe. Et c'est ce qui permet de calibrer en fait, l'expérience. Ce sont les points rouges ici. Donc ici, vous avez le nombre de cycles de 0 à 10. Et puis ici, vous avez le déplacement en delta x sur A. Et donc, quand on fait un ajustement des points rouges par une droite, eh bien, on trouve une pente 0,94, ce qui veut juste dire qu'ils ont probablement un petit problème de calibration de leur imagerie. Normalement, on devrait trouver une pente de 1, puisque quand je bouge mon réseau comme ça, je suis sûr que je bouge d'une demi-longueur d'onde. Donc, simplement, c'est compatible aussi avec les barres d'erreur. Hein, la barre d'erreur, c'est 0,04, donc ça va. Et en bleu, eh bien, en bleu vous trouvez le déplacement que vous obtenez quand vous faites cette manip beaucoup moins triviale, qui est ce super réseau qui se décale par rapport, enfin, le réseau secondaire qui se décale par rapport au réseau principal, ces déformations. Et là, eh bien, on trouve quelque chose qui est tout à fait compatible, là aussi, avec une quantification. Donc ça, c'est une très belle illustration, encore une fois, de ce principe de la pompe géométrique. Les chercheurs de Kyoto ont aussi vérifié que c'était robuste, cette chose-là. Cette robustesse, comment est-ce qu'ils l'ont testée? Eh bien, ils ont comparé différents cycles possibles dans le plan que je vous ai déjà donné tout à l'heure, J' sur J dans un axe, et puis delta sur l'autre axe. Alors eux, ils ont échangé, le delta, il est en abscisse, et puis le J' par rapport à J, il est en ordonnée, et en plus, il appelle petit delta. Donc il faut faire une petite gymnastique mentale pour faire correspondre les deux, mais l'important, c'est est-ce que je fais le tour ou pas du point singulier qui est le centre du repère là. Alors, la manip que je vous ai décrite à la diapositive précédente, ce sont les points verts ici, c'est quand on fait un tour bien régulier, et je trouve donc une pente de 1. Vous avez les points rouges qui sont là, les points rouges, c'est simplement de tourner dans l'autre sens. Si vous tournez dans l'autre sens avec le même système, vous constatez que ça part dans l'autre sens, c'est heureux, c'est ce qu'on attend, et ça marche bien. Les points bleus, qui sont quasiment superposés aux points verts, ça consiste à faire un contour, mais un contour un peu déformé, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un cercle bien régulier dans ce plan J' sur J delta, on fait un demi-cercle, ensuite on fait un petit décalage, une quantité qui est arbitraire, et puis on finit la boucle sur un plus petit cercle, et puis après on revient au point de départ. Et bien ça, une déformation du contour comme ça, ça ne change rien, voilà ce qu'ils obtiennent. Et puis maintenant, si on se dit, tiens, je vais essayer de ne pas faire le tour de ce point singulier, donc je fais le demi-cercle comme ça, mais je reviens en arrière comme ceci, ça, ce sont les points rouges, à ce moment-là, les atomes restent sur place. Donc, c'est important de faire le tour du vortex si on veut voir la quantification. Si je ne fais pas le tour du point singulier, bien là, je n'ai pas de déplacement de mes atomes. Voilà, donc c'est une très jolie illustration. Les deux autres manips sont aussi très jolies. Hein, les manips de Maryland et les manips de Munich sont également très jolies. Très jolie illustration de ce concept. Et maintenant, donc, dans le dernier paragraphe, je regarde où j'en suis avec le temps, oui. Dans le dernier paragraphe, je voudrais vous parler donc d'une manière de comprendre cette pompe adiabatique de manière un petit peu plus sophistiquée que simplement en disant j'ai pas d'effet tunnel à travers les barrières hautes, j'en ai qu'à travers les barrières basses. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça de manière un peu plus aboutie? Et pour ça, eh bien, on va revenir déjà aux bases, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre ce qui se passe compte tenu de la périodicité spatiale du problème. On va essayer de comprendre ce qui se passe sur nos états propres du système. Donc, je représente ici le quasi-moment, le moment de bloc, Q, avec ma zone de Brillouin entre moins pi sur A et pi sur A. Supposons que je parte à l'instant initial, au début du cycle de la pompe, d'un état de bloc psi Q de la bande fondamentale, psi Q moins, et puis j'ai le temps donc, qui va se dérouler. J'ai ma pompe qui va durer un cycle grand T, et je me demande ce qui va arriver à mon état de bloc. Donc je vais chercher à mettre une réponse sur le point d'interrogation, là, qu'est-ce qui arrive à un état de bloc dans un cycle de pompe? Quel est l'état de la particule après la durée grand T? Alors le raisonnement, il se fait en deux étapes. Première remarque, c'est de dire qu'à tout instant T, mon Hamiltonien va rester périodique d'espace. Quand je fais ma pompe adiabatique, mon Hamiltonien est à chaque instant périodique d'espace. Je déforme mon potentiel, mais mon potentiel de mon réseau, de mon super-réseau, reste périodique d'espace. Donc j'ai une version dépendante du temps du théorème de Bloch qui me dit que si je pars avec une fonction d'onde initiale qui a la forme de Bloch, le produit d'onde plane par une fonction périodique d'espace, eh bien cette forme de Bloch va être préservée. Ça, c'est vrai, quelle que soit la vitesse à laquelle je tourne la manivelle de ma pompe, la forme de Bloch est préservée du moment que mon Hamiltonien reste périodique d'espace. Donc je suis sûr de garder quelque chose qui va s'écrire l'onde plane fois une fonction périodique. Donc, progressons. Si maintenant je prends en compte le fait que ma pompe est une pompe adiabatique, donc j'évolue doucement dans mon espace des paramètres, donc J, J', delta, varie lentement dans le temps, et si par ailleurs je n'ai jamais de dégénérescence, ça implique en particulier qu'il n'y a pas de fermeture de gap dans le courant sur la trajectoire suivie par ma pompe dans le plan J' sur J et puis delta, si j'ai donc pas de dégénérescence qui apparaît, et si je bouge lentement, eh bien, je sais que le théorème adiabatique va s'appliquer. Et donc, je sais que je vais suivre adiabatiquement l'état propre de mon Hamiltonien duquel je suis parti. Et si je vous dis que je pars de la bande fondamentale, ici, le psi Q-, et encore une fois, si la bande fondamentale ne vient pas toucher la bande supérieure parce que je n'ai pas de fermeture de gap, si les deux bandes restent en permanence séparées avec un gap qui reste fini, eh bien, à ce moment-là, je sais que je vais rester dans la bande fondamentale. Et à ce moment-là, dans mon modèle dans le modèle que j'ai considéré ici, c'est très simple, puisque je sais que je reste souvent dans l'état de Bloch, et je sais que je reste dans la bande fondamentale, donc je vais rester dans l'état psi-Q-, je n'ai pas le choix, j'ai qu'un seul état éligible pour finir ici. La seule chose que je vais pouvoir gagner dans un cycle de pompe, c'est une phase et puissance I gamma Q, une phase qui résulte donc de l'évolution de mon cycle de pompe. Mais je sais dans quel état je finis. J'ai répondu au moins partiellement au point d'interrogation que j'avais mis. Qu'est-ce qu'il y a dans cette phase ? Ce qu'il y a dans cette phase, on l'a déjà vu plusieurs fois dans ce cours, donc je vous rappelle, il y a deux composantes. Il y a la phase dynamique, simplement le produit de l'énergie par le temps, et puis il y a la phase géométrique. La phase dynamique, donc je l'ai écrite ici, la phase géométrique, quelle est-elle ? Bien, la phase géométrique, c'est donc l'intégrale d'une connexion de Berry sur la trajectoire que je suis. Donc je réintroduis une connexion de Berry, mais attention, là je lui ai mis un petit indice 2 ici, parce que c'est une connexion de Berry non pas, comme tout à l'heure, en faisant intervenir la dérivée par rapport à Q, je ne suis pas en train de me balader dans la zone de Brillouin pour l'instant. Je suis à un point de la zone de Brillouin et j'évolue en fonction du temps. Donc, ce que j'ai, c'est que j'ai des vecteurs propres U, Q, ici, qui dépendent de deux paramètres. Maintenant, ils dépendent de Q, bien sûr, là où je suis parti ici, mais ils dépendent du temps quand je me promène le long de cette flèche rouge. Et la connexion de Berry qui m'intéresse, cette fois-ci, la phase géométrique qui m'intéresse, c'est ce qui se passe quand je suis à Q fixé, quand le temps varie. Donc c'est par rapport à cette variable t que je dois prendre ma dérivée pour calculer la connexion de Berry. Je dois calculer le produit scalaire de l'état uq de t, enfin u de q et de t, fois son propre gradient, mais son gradient par rapport à t. Pour la phase géométrique, c'est de ça dont j'ai besoin. Donc c'est pour ça que j'ai introduit un indice petit 2 ici. L'indice petit 1, ce serait la dérivée par rapport à q. C'est là que vous voyez intervenir les deux dimensions, une de temps, une d'espace. Et donc l'opérateur sur un cycle de pompe, eh bien, c'est simplement, puisque je reste dans l'état propre, si je pars de UQ, je reste dans l'état propre Q, cet état propre dans un cycle de pompe, c'est simplement E puissance I gamma Q, et je peux l'écrire avec, ça fait un peu pédant, mais ça va servir dans la diapositive suivante, je peux écrire avec un chapeau, finalement, c'est un opérateur qui est diagonal dans la base des moments, la base des moments, c'est, donc j'ai introduit l'opérateur moment de Bloch, qui est simplement l'opérateur qui, quand je le fais agir sur un vecteur de Bloch me donne Q fois ce vecteur de Bloch, eh bien, l'opérateur d'évolution sur un cycle de pompe, c'est simplement exponentielle I gamma de Q, opérateur diagonal dans la base des moments. Et c'est ça qu'il s'agit de calculer maintenant. Alors plus précisément, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que ma matière se transporte dans un cycle de pompe. C'est ça qui m'intéresse, c'est le déplacement de mes paquets d'ondes. Enfin, si je veux reprendre l'expérience de Kyoto, j'aurais plutôt le dessiner verticalement. Je pars d'un paquet d'ondes qui est ici. Après un cycle de pompe, le paquet d'ondes s'est déplacé vers le haut, vers le bas, et c'est ça que je veux calculer. Donc, j'ai un certain paquet d'ondes représenté en bleu, à t égale 0, j'ai un deuxième paquet d'ondes en rouge qui est donc déplacé d'une certaine quantité delta x, et c'est ça que je veux calculer. Donc pour ça, je vais suivre une démarche assez compacte que j'ai trouvée dans l'article de Jan Spielmann, qui est très, très élégante, et elle cache certains petits problèmes sous le tapis, mais très peu, et on peut les résoudre, qui consiste à dire que j'ai exprimé donc ma phase géométrique à l'aide de cet opérateur moment. L'opérateur position qui m'intéresse, enfin, plus précisément sa moyenne, est le conjugué de l'opérateur moment, c'est-à-dire que le commutateur de xq, c'est i, je rappelle que le commutateur de xp, c'est ih bar, et que p, c'est h bar q, c'est là que sont les subtilités, parce qu'il faut se mettre dans un réseau pour bien dire les choses, mais enfin bon, au moins, grosso modo, on peut dire que le commutateur de xq vaut i, et donc, si je me place en point de vue de Heisenberg, pour calculer la position à l'instant t par rapport à l'instant 0, eh bien, l'opérateur position à l'instant t, c'est simplement l'opérateur d'évolution u croix, enfin, l'analytique conjuguée u croix x, u, et si vous utilisez cette relation de commutation de commutateur de x avec q, eh bien, cette chose-là, c'est rien d'autre que x à l'instant 0 moins la dérivée partielle de gamma par rapport à q, en utilisant simplement le fait que u de t, c'est i gamma de q. C'est des manipulations algébriques assez habituelles sur les commutateurs, à partir du moment où on a un produit d'opérateurs dont le commutateur vaut i. Et donc, le déplacement, qui est simplement la valeur moyenne de x de t moins la valeur moyenne de x à l'instant 0, eh bien, c'est simplement la valeur moyenne de cette quantité-là. Et si je suppose que mes populations, enfin que ma matrice densité a un corps est diagonale dans la base des Q, tout ce que je dois faire pour évaluer la valeur moyenne du déplacement ici, c'est simplement prendre cette quantité, donc la dérivée par rapport à Q de la phase gamma de Q, la pondérer par la population de l'état Q, et puis intégrer sur ma zone de Brillouin entre moins pi sur A et pi sur A. Alors cette chose-là, elle dépend donc de la manière dont j'ai préparé la particule, donc ça, a priori, ça ne va pas me donner quelque chose de quantifié. Pour obtenir la quantification de Thaouless, il faut supposer, en plus, que toutes les populations pi de q sont égales entre elles. Alors Thaouless, pour justifier cette chose-là, il disait qu'il prenait des fermions et il prenait un isolant. Donc il avait une bande fondamentale qui était pleine, et si vous prenez une bande pleine, effectivement, ça veut dire que vous avez un opérateur densité à un corps qui est diagonal dans la base des quasi-moments avec une population de 1 par état de bloc. Ce n'est pas nécessaire d'avoir ça. Ce qui suffit, c'est d'avoir un gaz à une température qui est suffisamment élevée pour que la température soit grande devant la largeur de bande. Si votre température est grande devant la largeur de bande, à ce moment-là, vous savez que tous ces états de la bande auront à peu près la même population. Évidemment, il ne faut pas peupler non plus les bandes supérieures, donc il faut que la température soit petite devant le gap entre la bande du bas et la bande du haut. Mais si votre température remplit cette double condition, grande devant la largeur de bande mais petite devant le gap, à ce moment-là, vous pouvez dire que toute la population est concentrée sur la bande du bas avec des populations égales pour tous les AQ. Et c'est ça qui a été réalisé dans l'expérience de Kyoto. Donc quand on a ça, eh bien, on a la quantification recherchée, je vais vous expliquer pourquoi, parce que le delta X, finalement, il s'écrit sous cette manière. Pi de Q, je vous dis, il est uniforme, donc il va simplement valoir, comme si je le normalise à 1 pour l'intégrale, il va simplement valoir A sur 2pi pour tous les états, et tout ce qui me reste, c'est l'intégrale d'une dérivée, l'intégrale de la dérivée par rapport à Q de la phase gamma de Q. Et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on consacre les dernières minutes de ce cours. Donc, je récapitule, voilà ce que je dois calculer maintenant, l'intégrale de cette dérivée. Ce gamma de Q fait intervenir la phase dynamique et la phase géométrique, et c'est ça qu'on veut calculer. La phase dynamique ne contribue pas à cette intégrale. Et ça, c'est assez facile à voir, simplement parce que quand je prends la dérivée de la phase dynamique, quand je prends l'intégrale de la dérivée, très naïvement, l'intégrale d'une dérivée, c'est la valeur de la fonction aux deux bornes. Il faudra qu'on prenne des précautions pour la phase géométrique, mais pour la phase dynamique, il n'y a pas de précautions à prendre, tout se passe bien. Et comme la phase dynamique, c'est l'énergie fois le temps, et comme l'énergie est périodique sur la zone de Brillouin, l'intégrale de la dérivée de la phase dynamique donne 0 parce que l'énergie va avoir la même valeur aux deux bornes de l'intégrale. Donc la phase dynamique, vous pouvez l'oublier. Si vous ne faites pas confiance, vous vérifiez les calculs vous-même, c'est vraiment très simple. Maintenant, la contribution à la phase géométrique. C'est là que les choses ne sont pas évidentes et qu'il faut faire attention qu'il y a des subtilités. Je dois donc calculer ça. Moins A sur 2pi, l'intégrale de la dérivée de la phase géométrique par rapport à Q dq. Alors évidemment, ce qu'on a envie de dire, comme je l'ai dit, c'est l'intégrale d'une dérivée, on a envie de dire que simplement, le moins a sur 2pi toujours, et puis la valeur de la fonction, phase géométrique, en plus pi sur a, la borne supérieure de l'intégrale, moins la valeur en moins pi sur a, la borne inférieure. Tout le problème, c'est de donner un sens à cette valeur-là et à cette valeur-là. Et c'est là qu'il faut faire attention. Il peut y avoir des singularités mathématiques. Et puis même sans singularité mathématique, ce n'est pas évident de savoir que donner à ça et à ça. Ces phases-là vont toutes valoir pi à 2 pi près. Mais la question, c'est tout justement où sont les pi et où sont les 2 pi. Donc il faut faire bien attention. Et j'espère que dans la diapositive suivante, on va faire bien attention. Donc on va vous faire une évaluation géométrique de cette quantité-là. Alors allons-y. Donc je suis en train de regarder un cycle de pompe qui est ce que j'ai dessiné ici, enfin je crois qu'on tourne dans ce sens-là, ici. Je veux évaluer une phase géométrique, donc je vais avoir besoin d'une trajectoire sur la sphère de Bloch de mon vecteur à deux composantes, le vecteur petit u. Pour ça, je dois me rappeler comment est-ce que je paramètre ce vecteur petit u. Je le paramètre avec des angles θ, θ, q et φ, q. Et je vous rappelle la définition de θ, q et de φ, q. Cosinus θ, c'est l'angle que fait le vecteur avec l'axe z. C'est simplement le rapport entre delta, qui est effectivement le terme qui venait dans sigma z, divisé par le module de mon vecteur h. Quant aux composantes de h dans le plan xy, eh bien, je les obtiens en prenant les parties réelles et imaginaires de j' plus j divisé par module de h. C'est ça qui me permet de déterminer sinus θ et puis φ. Je vous rappelle aussi quelque chose que j'avais eu l'occasion de vous signaler tout à l'heure. Si je me demande quand est-ce que les pôles sont atteints, eh bien, il faut que je prenne qa égale plus ou moins pi. À ce moment-là, la quantité et puissance iφq sinus θq qui est écrite ici, c'est un réel. Si je prends qa égale plus ou moins pi, j'ai puissance iqa qui vaut moins 1. Donc au numérateur, j'ai j' moins j, donc c'est bien réel ici. C'est un réel, mais qui change de signe. Et en particulier pour j' égale j, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, à ce moment-là, cette quantité-là va valoir 0, cosinus θq vaudra plus 1, et je serai sur un des pôles, le pôle nord ou le pôle sud, selon la valeur de delta. En revanche, si qa vaut 0, à ce moment-là, je n'atteins pas le pôle, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, parce que si je prends qa égale 0, à ce moment-là, ici, au numérateur, j'ai j' plus j, donc c'est un nombre qui est positif, et donc je n'annule pas les composantes de mon vecteur h dans le plan xy. Bon, alors, ça, c'était des préliminaires. Tout va se passer dans le carré qui manque, là. Donc, je vais m'intéresser, dans un premier temps, à ce qui se passe si je pars d'ici et si je vais là. Donc, je vais regarder donc, la phase géométrique que j'accumule sur cette trajectoire-là. Donc, voilà ma sphère de Bloch. Quand je passe de là à là, ce qui se passe, donc, c'est que je pars d'une quantité... Disons que je pars de ce point-ci, pour simplifier. Donc, je pars d'un point qui est dans le plan équatorial, et puis je tourne comme ça, donc je commence par avoir un delta négatif. Delta négatif, ça veut dire que je vais aller un petit peu vers le pôle sud, je vais me déplacer sur un méridien, parce que cette quantité-là va toujours rester réelle, donc la composante selon Y va valoir 0, si QA égale 0. Donc je reste sur un méridien ici, correspondant à HY égale 0, mais je vais me déplacer vers le bas, mais je ne vais pas atteindre le pôle sud, encore une fois, parce que là j'ai quelque chose qui est toujours strictement positif au numérateur, et puis ensuite, je vais faire demi-tour, je vais revenir, et puis je vais faire donc ce petit segment-là. Donc là, ma phase géométrique va valoir 0, puisque j'ai un angle solide qui vaut 0, et la phase géométrique, je vous rappelle, c'est la moitié de l'angle solide. Donc, phase géométrique 0. Supposons maintenant que je prends ici ce point, cette trajectoire bleue-là. Donc je prends un QA, cette fois-ci, qui ne vaut plus ni 0 ni pi. Donc le terme en puissance IQA ici est complexe, il n'est plus réel. Donc là, maintenant, j'ai une composante sur x et une composante sur y. Donc, j'explore une trajectoire sur ma sphère de Bloch. Là, c'est le résultat du calcul. J'explore cette petite trajectoire-là. Donc, j'ai un vecteur qui se balade comme ça. Donc là, j'ai un angle solide qui, quand on le calcule, est positif. Là, il valait 0. Là, il est positif. Il est petit, mais positif. Et donc, phase géométrique, qui est la moitié de cet angle solide, qui elle-même est petite et positive. Je continue à me déplacer. Trajectoire verte. Je vais de plus en plus loin dans la partie où HY est non nul. J'ai ça. Je continue. Trajectoire jaune, j'espère que vous la voyez tous, elle est ici. Trajectoire orange ou beige, elle est là. Et la trajectoire rouge, finalement, qui est là. Et donc là, je suis capable maintenant de donner un sens. C'est ça, c'est mon problème. Quelle est la phase géométrique quand je suis en Q égale plus pi sur A? Eh bien, je vois que par continuité, l'angle solide correspondant à cette trajectoire plus pi sur a, eh bien, c'est un angle solide qui va valoir plus 2 pi. Puisque là, je vous ai dit, c'est un angle solide qui est petit et positif, de plus en plus grand et positif, jusqu'à ce que j'atteigne la trajectoire rouge, qui vaut donc la moitié de l'espace, qui vaut donc plus 2 pi. Et donc la phase géométrique, elle, c'est la moyenne de l'angle solide, c'est donc plus pi. Maintenant, si vous allez dans l'autre sens, ah, j'aurais pas dû faire demi-tour, pardon, c'est pas grave, ça me donne l'occasion de le revoir une deuxième fois, voilà, si je vais dans l'autre sens, trajectoire bleue qui est là, eh bien, au lieu de faire le tour ici, comme ça, là, je le fais comme ça. Donc, j'obtiens deux, mes deux cercles bleus tournent dans ce sens-ci, donc là, j'ai un angle solide qui est petit et négatif, ici, donc phase géométrique également petite et négative, et puis, quand je vais continuer, eh bien, je peux dessiner tous mes cercles, et je me retrouve, ici, en moins pi sur a, avec une trajectoire qui est de nouveau la trajectoire rouge, mais cette fois-ci, je vois que l'angle solide que je dois lui donner, c'est moins 2π par continuité, puisque là, je suis parti d'angle solide qui était petit et négatif, de ce côté-là, en partant de 0, petit et négatif, puis ensuite, de moins en moins petit, mais toujours négatif, pour arriver jusqu'à la même trajectoire ici, mais qui cette fois-ci donc, est moins 2π, et donc une phase géométrique de moins π. Et donc là, je suis content parce que j'ai pu donner un sens aux deux termes de mon équation, par continuité. Plus précisément, ben là, je vous ai redessiné les valeurs de la phase géométrique qu'on a trouvées ensemble. Donc quand Q égale 0, j'ai l'angle solide 0. Ça, c'était les points bleus, qui étaient, je vous ai dit, petit et positif, petit et négatif, qui étaient les deux rotations comme ça. Et puis, par continuité, donc, je suis arrivé à plus pi ici, quand Q égale plus pi, et à moins pi ici, quand Q égale moins pi. Donc le delta x qui est là, qui est donc cette différence de deux phases géométriques, eh bien, c'est moins a sur 2π plus pi moins pi, c'est-à-dire moins a. J'ai mon déplacement quantifié, et là, je l'ai sans aucune hypothèse sur la force des effets tunnels. Vous pourrez vous convaincre, tout ce qui compte dans ce raisonnement, c'est d'avoir bien atteint les pôles dans ces trajectoires-là, et de bien avoir atteint les pôles dans ces trajectoires, eh bien, c'est d'être sûr que j'ai bien fait le tour de mon vortex. Si je prenais une trajectoire qui était ici, si mon ellipse rouge, là, au lieu d'être là où elle est, si je la mettais ici, eh bien, je n'atteindrai jamais l'épaule dans cette trajectoire rouge, là, et je trouverai donc des phases géométriques qui vaudraient zéro aux deux extrémités. Le fait que les phases géométriques vaillent plus pi et moins pi, c'est-à-dire cette valeur-ci et cette valeur-là, c'est parce que j'ai bien fait le tour de mon point singulier. Donc, on arrive là à un déplacement quantifié, et on arrive finalement à une deuxième nature de la topologie, c'est là-dessus qu'on va construire dans les cours qui vont suivre, qui sont que quand je fais cette trajectoire-là qui entoure ce point singulier-là, eh bien, finalement, j'enveloppe complètement ma sphère de Bloch. Dans les cours précédents, ce que j'avais comme caractéristique topologique, c'était faire un contour fermé sur l'équateur, mais maintenant que je suis à deux dimensions, ce qui va compter, c'est d'envelopper complètement la sphère de Bloch, l'envelopper de manière indéfroissable, et c'est ça qui va être la nouvelle caractérisation de la topologie. Juste avant de terminer, oui, ça va, il me reste encore une ou deux minutes, j'introduis cette diapositive parce que ça va servir ensuite dans les cours suivants, donc c'est un premier contact avec la notion de courbure de Berry, qui est une autre manière de dire ce que j'ai dit juste avant. Finalement, on a introduit ici deux connexions de Berry dans ce cours. Une première connexion que j'ai introduite, c'était pour calculer la phase de Zach, c'était ce qui se passe quand je parcours la zone de Brillouin, quand je me part d'un Q qui vaut moins pi sur A pour aller à Q égale plus pi sur A. Et pour ça, j'avais besoin de la connexion qui faisait intervenir la dérivée par rapport à Q de mes vecteurs de base, de mon pseudo-spin. Et puis, je vous ai introduit une deuxième connexion qui est celle qui m'a servi à calculer la phase géométrique quand, à Q fixé, je faisais varier le temps. Hein, c'était la dérivée par rapport au temps, cette fois-ci, qui intervenait. Ça, c'est ce qui calculait la phase géométrique pour un cycle de pompe. Eh bien, une quantité naturelle à introduire, maintenant qu'on a ces deux composantes A1 et A2 pour la connexion, eh bien, c'est la courbure de Berry. Cette courbure de Berry, je vous rappelle, simplement le rotationnel de la connexion. En l'occurrence, c'est un nombre, c'est la composante selon Z du rotationnel, selon la troisième composante, je l'appelle notre grand oméga, et c'est simplement, quand vous faites le calcul du rotationnel de ces deux vecteurs à deux composantes ici, vous obtenez le produit scalaire entre dq dt moins dt dq, ça vous le multipliez par i et vous avez une quantité qui est réelle. Et cette quantité, contrairement à la connexion de Berry, cette quantité, la courbure de Berry, c'est une quantité qui a un sens physique, c'est une quantité qu'on peut mesurer, c'est une quantité qui est invariante de jauge. Et on peut réexprimer tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant en termes de cette quantité, c'est-à-dire que cette chose-là que j'ai évaluée, l'intégrale de la dérivée de la phase géométrique par rapport à Q, que j'ai évaluée de manière géométrique, eh bien, vous pouvez, si vous voulez faire la méthode algébrique, la réexprimer en fonction de la de la courbure de Berry, grand oméga, et ça va apparaître, cette quantité, comme une intégrale donc, sur dq, comme cette intégrale-ci, et quand vous remplacez la phase géométrique par son expression, comme une intégrale sur le temps, également. Donc vous avez une intégrale bidimensionnelle en fait, à prendre sur le rectangle grisé ici de la courbure de Berry, et cette quantité-là est une quantité qui est une quantité robuste, parce que donc, je manipule une quantité qui est invariante de jauge, qui est une quantité physique, et en calculant cette intégrale-là, eh bien, on trouve effectivement le même résultat que ce que j'ai fait de manière géométrique. Donc ça, encore une fois, c'est juste un premier jalon pour ce qu'on va voir dans les cours qui vont suivre. On va beaucoup utiliser cette notion de courbure de Berry, qui est la bonne quantité qui évite les singularités mathématiques liées au problème des connexions. Donc je conclue. Avec cette pompe adiabatique, j'espère vous avoir convaincu comment faire les premiers pas vers les problèmes bidimensionnels, donc en passant de Q à QT, et puis donc la semaine prochaine à des problèmes en bidimensionnel d'espace, QX, QY, avec cette quantification du transport dans un cycle de pompe. On a trouvé ici un nouvel invariant topologique qui est un peu plus compliqué que simplement est-ce que je fais un tour sur l'équateur ou pas. C'est comment est-ce que j'enveloppe la sphère de Bloch quand je me promène dans un espace à deux dimensions qui est soit QT, soit pour la prochaine fois QX, QY. Et on a vu apparaître, ça c'était la toute dernière diapositive, une quantité qui était appropriée pour calculer cette quantification du déplacement, c'est l'intégrale de la courbure de Berry sur la zone de Brillouin fois l'intervalle de temps 0t. Et finalement, la manière dont on peut formuler notre résultat de quantification de la pompe, c'est que delta x sur a, eh bien, c'est un nombre entier. Ce nombre entier, c'est donc 1 sur 2π fois l'intégrale de cette courbure de Berry dq dt sur la zone intéressante. Eh bien, cette quantité-là, en fait, en topologie, c'est ce qu'on appelle un nombre de Chern, et c'est ça qui jouera un rôle important dans tous les cours qui vont suivre. Voilà, je m'arrête ici. Merci beaucoup.